I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On y va?
Allez!
Allô!
Vous savez quel épisode c'est?
C'est l'épisode 57.
Mais tu crois qu'on a des bails, nous?
Je fais tellement pas confiance.
C'est l'épisode d'après celui d'avant.
Allez, je suis parti. Bonjour tout le monde, bonsoir, comment ça va? C'est Louise Petrouska!
Ouais, elle a mué!
C'est faux! Loulou n'est pas là, Loulou est en vacances parce que vous savez quoi? C'est.
Les vacances.
Les week-ends et tout ça, les longs machins, les trucs, les gens ils prennent des vacances, ils se reposent,
c'est
normal. C'est grâce à la SFIO qui se sont battus pour les congés payés en 1936. Vous souvenez-vous?
Merci la SFIO.
Je savais que ça allait être chiant ce podcast avec des hommes de plus de 40 ans.
Ça commence.
C'est pour ça que tu m'as dit de venir. Voilà. En fait, elle m'a canardé, elle me dit viens, on va boire un verre et avant, on fait un podcast.
C'est ça la France communiste. C'est les journées, les, jour, les jours payés.
On s'est dit bisous, mais avant, il y a un podcast.
Ceci dit, j'étais à deux doigts de proposer à Kalindi d'inviter Naël, et là, je me suis dit quand même, ça ferait trois mecs plus Kalindi, ça ferait bizarre.
Bah, je vous aurais clashé de ouf, hein. Moi, avec trois hommes, c'est moi qui dirige.
Oh.
Non,
sûr,
ça hein, y moi, est, je suis la commandante, hein. Oh. Naël, il me dit tout le temps, t'es pas la commandante, je lui dis, bah, avoue que si, et après, il me fait, ouais, j'avoue, avec un air de victime. Bisous.
Mon Dieu, c'est Naël, charmant. C'était déjà la star du podcast en live, hein, un petit peu, hein.
Putain, j'avoue, c'était abusé, il était trop là.
Ouais. Naël? Ouais.
Mais les gens étaient contents, m'envoyaient des messages gentils, merci Naël.
Bon, et vous avez entendu cette douce voix que peut-être vous connaissez si vous,
bonjour.
Êtes, si vous êtes sur Mademoiselle depuis un petit moment.
C'est Mimi.
C'est ça.
Mimi aussi est en vacances. Mimi a mis une robe parce qu'elle est dans un mariage.
J'ai vu.
Oh.
Elle a mis une robe noire, bon, c'est déjà une robe.
Et un push-up, elle a dit.
Ah ouais?
Oui, elle a dit ça avant de partir. Elle a dit, c'est la première fois que vous me verrez en robe et en push-up, les mecs. Préparez-vous, ce ne sera pas tous les jours.
Fracture nette de l'œil droit.
Personne n'a plus âgé d'Europe.
Attends, j'avoue, t'aurais été avec trois mecs d'un âge certain.
Habitude.
Et donc, pour te présenter Alison, tu es Alison?
Oui, l'ancêtre de Manu. Qui jadis travaillait à Mademoiselle. dans une autre vie il y a un an.
Oui, c'était il y a pas si longtemps que ça.
Ouais, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps.
C'était un an, il y a un an et demi, non? Un peu moins.
C'est pas très grave, les gens s'en foutent à la limite, mais en tout cas, t'as été là pendant un petit moment chez Mademoiselle pour t'occuper de la rédac rubrique beauté.
C'est ça. Et des fois, je faisais quand même des petites blagues pour The Game of Thrones, pour Kalindi et Mimi.
C'est vrai. D'ailleurs, si je me trompe pas, quand cette vidéo, quand ce podcast sortira, tu seras passé dans l'épisode de Game of Thrones, du podcast Game of Thrones avec Mimi.
Ah. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça peut pas être un de mes kiffs que le monde entier vibre autour d'une série qui glorifie la consanguinité. Du coup, je dois tout garder. Je dois garder ma diarrhée verbale martinienne pour Mimi, du coup.
Ah.
Je ne sera pas ça.
Bah, si tu parles de... Si tu digresses sur Game of Thrones dans les moments qu'il fait, c'est sûr que ça va être un peu long, quoi. Mais
bah oui, c'est
ceci
pour ça,
dit,
Mimi
le fait depuis environ un mois. Ça,
c'est vrai.
C'est pas très grave.
Mais même avant, elle a toujours fait.
Chaque épisode, finalement. Clair. Et t'as fait des vidéos aussi sur Mademoiselle.
Oui, j'ai fait des vidéos.
C'est vrai.
C'était les débuts du planning lundi c'est mode, mardi c'est sister.
Les débuts du YouTube Squad.
Ouais, c'était ça, les débuts.
C'est vrai.
Et après, j'ai vu, elles ont toutes pris leur envol. Chacune de leur côté. C'était cool aussi.
Bon, bah, en tout cas, bienvenue. C'est trop bien. Et puis, il y a Kalindi qui est là. Salut.
Bonjour.
Ça va?
Bah, moi, ça va très bien.
C'était bien?
J'étais.
La vie?
J'étais bien.
La vie,
oui, globalement. J'étais
ça
pas
va?
Là au dernier épisode.
Ça va bien.
Je m'excuse. Cool. Ouais. Je sais même plus pourquoi j'étais pas là, mais
pourquoi
pour une raison sans doute tout à fait valable.
T'es sûr? Et Cédric, ça va? T'es relou toujours ou pas de parler au-dessus des gens?
Non.
Ça va, mon Cédric?
Oui.
Voilà, il y a le teint frais.
Qu'est-ce qu'il est beau.
Concis. On m'a dit d'être concis.
Pour une fois. Oui. C'est vrai que c'est fait remonter les bretelles parce qu'il arrête pas de parler. Alors on lui a dit, ferme ta gueule à ce prochain épisode, merci. On va voir s'il respecte la nouvelle consigne.
Oh là là.
Mais moi j'ai peur maintenant de parler.
Non, toi non. Ça va, c'est lui.
C'est lui qui a du mal, d'une manière générale.
Pauvre Cédric.
Bon, oui. j'ai pas du tout préparé de commentaires parce que comme on sait pas trop, la semaine passée il n'y avait pas eu de laisse-moi kiffer, désolé, mais en fait c'était un peu compliqué effectivement avec les ponts, les machins, il y avait plus personne. Donc on ne sait plus, mais en tout cas pour le prochain épisode, il y aura des nouveaux commentaires sur l'épisode de celui-ci. De cette team. Hein, on va faire ça?
Il y aura des commentaires et les gens de d'habitude.
Écoutez, moi je suis intérimaire, je fais de mon mieux. Hein, croyez-moi.
Le mec, c'est le taulier. Ouais, je suis intérimaire.
J'avais juste un truc à dire.
Ouais.
Par rapport à un LMK sur, où j'ai parlé de ce documentaire fabuleux qui s'appelle The Dawn Wall et que j'ai oublié de vous dire dans le dernier épisode, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit il faut que tu contactes ton cousin américain pour qu'il te procure ce documentaire fantastique qui s'appelle Free Solo. Et qui a gagné le documentaire de l'Oscar cette année.
Ouais.
Et c'est un gars, alors j'ai pas encore regardé, j'ai appelé mon cousin, il me l'a envoyé et tout, je suis bien, et je l'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais c'est le mec qui fait exactement la même montée. Tu l'as vu ou pas, de Dawn Wall?
Non, je l'ai pas vu.
C'est le gars, il monte le fameux rocher de Yosemite, là, tu sais.
Oui.
Et il fait en sorte de tout monter comme ça, de A à Z, en une fois. Donc c'est vraiment un truc de zinzin et surtout il prend une route qui n'a jamais été prise, c'est-à-dire qu'il invente une route pendant 7 ans du truc qui apparemment n'est pas grimpable et il décide de le grimper.
Mec invente des routes.
Voilà, exactement. Vraiment, il est chaud, hein. Il reste là et tout, il teste les routes pendant longtemps.
Chacun sa route.
Et ce gars-là apparemment le fait, mais alors sans sécurité. C'est-à-dire que à tout moment il peut, oh j'ai glissé,
oui.
Oups, je tombe,
ah,
je
j'ai
meurs.
Voilà. Zut alors.
Eh ben, moi j'ai l'idole de mon papa qui était un Suédois. Donc mon père est très sportif et il a une idole qui s'appelle, j'ai oublié comment, mais c'était un type, un Suédois ou un Norvégien. On va l'appeler Sven, exactement. Et Sven, donc en fait, il arrêtait pas de monter des montagnes à base de, pas de pic à glace, mais je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, des crochets au pied là,
ouais,
mais sans aucune sécurité.
Crampons.
Donc le mec a passé sa vie, il a construit sa carrière sur le fait de gravir des montagnes énormes comme ça, sans aucune sécurité. Il est décédé.
Un jour en tombant.
Un jour en tombant.
C'est vrai, il est tombé vraiment ou alors il est décédé de maladie de.
Non, c'était un accident de grimpe.
Ah oui. Il est mort en faisant sa passion.
Non, mais je pense, hein.
Faites ce que vous aimez.
Vous êtes mort en avalant une bite. Bon, bah, c'était.
C'est mieux
c'était
que
votre
faire,
métier. Bon, bah,
c'est par une Twingo. Quel enfer.
Ça n'avait aucun rapport.
Je pense que c'est important, tu vois, t'es une étoile filante. Et hop, quoi, tu vois. Bon, cool. Est-ce que on peut commencer peut-être par les mini kifs?
Bah oui.
Alors je
c'est
propose.
C'est-à-dire qu'on
n'a
jamais fait autrement.
je propose d'insérer ici. sauf si vous aviez des trucs à dire sur vos derniers laisse-moi kiffer, vous avez des commentaires?
Non,
et tout.
Mais en fait, puisqu'on n'a pas de commentaires, je voudrais juste prendre 15 secondes pour dire que je pense que tous, on reçoit des commentaires des abonnés qui sont vraiment trop cool. Et je voulais remercier encore une fois les communautés qu'on a respectivement et même généralement. Parce que laisse-moi kiffer, ça nous apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et ça fait beaucoup de bien au quotidien. Donc merci. Voilà.
Moi, j'ai que des commentaires méchants de gens qui me disent je t'écris juste par pitié. Donc. Mais franchement, je prends ce qu'il y a sur la table. D'accord, merci.
Comme ce jour où t'as découvert qu'il y avait des gens qui t'écrivaient sur Insta parce que t'avais pas.
Il y avait genre
100 000
peu...
notifications de story que je pouvais plus voir.
Pour te mettre un peu dans la baille, Alison, un jour, elle me dit ouais, bah, personne m'écrit en DM. Et vraiment, on lui fait attends, t'es sûr? Parce que nous, tout le monde nous écrit. On est allé voir dans ses DM, il y avait genre 70 messages non lus, c'est juste qu'il savait pas où aller. Quel bolos.
C'est compliqué, Instagram, je préfère Facebook, c'est simple.
Bah, c'est pour les gens de ton âge.
Alors, qui veut démarrer ce mini kiff?
Pas toi, Alisson.
Bon alors, plouf, Cédric.
Plouf, Cédric.
Allez, Cédric. Comme ça, on te time.
Ça, c'est trop geek. Ça, c'est...
Oh merde, il est vraiment en train de chercher, là.
Ça, c'est l'enfer du geek.
Bah, bienvenue dans notre équipe.
Ah, c'est ça, votre vie?
Mais du coup, c'est la brigade du kiff sucré salé.
Bah,
yes.
C'est ça qui est un peu compliqué, ouais.
C'est ça.
C'est que ça se mélange, ouais. Tu sais, c'est important de mélanger.
C'est une famille recomposée aujourd'hui.
Bah, aujourd'hui, oui. Mais moi, j'avoue, c'est sympa. Mais on aime bien nos familles respectives aussi.
C'est sympa, mais...
Non, mais c'est pour dire à Mimi et Louise quand elles nous écouteront qu'on pense
ah oui.
à elles fort.
De toute façon, Mimi, elle n'écoute pas.
C'est ce que j'allais dire.
Donc, au moins, c'est clair.
Moi, c'est pareil, quand je suis pas, j'écoute pas.
C'est vous, nos vrais parents.
Alors, on a meublé un petit peu pendant que tu choisissais ton mini kiff en direct live, Cédric.
J'ai fait un fichier avec des kiffs. Du coup, je vais prendre un podcast. Parce que sinon, j'ai une chaîne YouTube qui explique comment. Non. C'est trop un truc de geek de l'enfer.
Allez.
J'ai reçu des commentaires qui me disaient c'est bien que tu parles de trucs de geek et de manga parce que vraiment, même si tu te fais tailler, on est tous là pour.
Deux commentaires. Pour
il y avait la team Tetris et il y avait la team des gens qui ont acheté Céleste et qui ont fait c'est trop bien, j'adore, merci. Ils étaient quatre. Tout à fait, c'est vrai.
Donc ce ouais, podcast, c'est quoi?
Mais non, l'inclusion des minorités et des minorités geeks oui. qui écoutent ce podcast.
Oh, c'est vrai qu'il est toujours au collège.
Il nous casse les couilles, hein, vraiment.
C'est vraiment ça.
Alors vraiment, autant quand t'étais au collège, c'était de la merde, mais maintenant, ils sont là, ils sont à la mode, les geeks. Donc vraiment, on commence pas à faire hein? style, oh, on est plus aimé, ça suffit, quoi.
Allez, go okay. Florent, ils sont big tous up, de gueule, tout
ça. Les geeks.
Non, mais les geeks, ils sont là, quoi, tu vois. Il y a 20 ans, ils étaient effectivement...
Là, ils sont tous vrai. En train de pécho et là, parce maintenant... qu'ils ont tous les rêves, quoi.
Bah ah, oui.
Et ouais. C'est vrai qu'ils pécho.
Je sais pas.
Les geeks pécho, mais si.
Cédric, ce podcast, qu'est-ce que c'est?
C'est un podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai eu la chance en plus de pouvoir écouter en avant-première, qui s'appelle 1000 degrés. Et donc, c'est le travail de deux meufs, qui s'appellent Adèle Imbert et Émilie Denêtre, qui sont deux journalistes d'investigation, qui en fait ont lancé ce truc, qui est une série 10 épisodes, sur la contre-investigation d'un fait divers qui s'est passé dans la banlieue de Toulouse dans les années 90. Donc, en 94, dans la banlieue de Toulouse, dans une ville qui s'appelle... quelque chose. Y a un couple qui a une boîte qui fabrique des lentilles de contact. Et un jour, il y a une espèce de boîte en bois devant leur magasin un matin. Et donc, ils embarquent la boîte, ils commencent. Et le monsieur du couple, il ouvre le truc, le machin explose. Et donc, c'est rempli de bouteilles d'essence, de vis et tout ça. Donc, explosion, ils sont gravement blessés. Et donc, ils sont embarqués immédiatement en urgence, tout ça. Et directement, ils disent aux gendarmes, ouais, c'est Daniel Massé qui a fait ça. Alors, qui est Daniel Massé? C'est un de leurs anciens collègues dans une grosse boîte qui faisait des lentilles de contact avant, dont ils sont tous partis. Et qui, en fait, les aidait un petit peu à installer des machines, qui étaient genre un peu un bricoleur, machin. Et ils ont eu un espèce de différend sur une question de rémunération de thunes, machin. Et ils étaient persuadés, donc, ils ont dit aux gendarmes, c'est lui qui a fait ce colis piégé, c'est lui qu'il faut arrêter. Donc les gendarmes sont allés voir Daniel Massé. Tu sais, il y a un peu ce côté, c'est la petite ville et donc c'est le mec que tout le monde aimait bien détester dans la petite ville, quoi. Mmh. Donc ils vont le voir.
Making a murderer, quoi, tu vois,
c'est ça.
Le mec est tout trouvé.
Et donc le gars, en fait, passe en procès et pendant 8 ans, il y a procès et reprocès et reprocès. Il est acquitté au bout de 8 ans de différentes procédures judiciaires. Mais c'est début 2000, le moment où une directive européenne passe qui permet de faire appel d'un acquittement. Et donc, poum! Le procureur fait appel de l'acquittement et Daniel Massé est condamné à 25 ans de prison. Et il en fait 15 et il est sorti donc l'année dernière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affaire, je crois que c'est l'affaire Massé, ce truc-là. Et donc c'est un fait divers.
C'est très logique. Hein, c'est
vrai. Ouais, makes sense. Et donc c'est un fait divers donc voilà, qui date d'il y a 25 piges maintenant. Et en fait, c'est deux journalistes d'investigation qui avaient fait le podcast avant Les Petits Revenants sur les enfants qui revenaient de Syrie. Feel good à fond, mais super bien, un truc en 3 épisodes vraiment cool, commandité je crois par Feu Boxon. Et donc en fait elles reviennent sur l'affaire, elles vont interroger en fait donc le couple qui avait été victime donc à l'époque, elles vont interroger Daniel Massé et elles refont un petit peu la contre-investigation de cette histoire là. Donc là sur le pitch, ça ressemble vachement à Serial, ce podcast qui a été un énorme succès aux États-Unis, ouais, The Podcast. Oui. Sauf que là, du coup, il y a un vrai côté où elles vont interroger un petit peu tous les personnages. En plus, c'est beaucoup de gens du Sud, donc ils ont des accents et des expressions qui sont un petit peu cocasses, dirons-nous.
Je crois latine.
Et qui sont charmantes en même temps, et un petit accent comme ça chantant tout en parlant d'explosion de colis piégés. Donc c'est assez ouf, quoi. Et du coup, il y a un vrai côté, genre un peu. Théâtre humain, tu vois, genre c'est comme si Balzac en fait avait écrit Serial finalement cette histoire-là. Elles ont bossé avec un super réalisateur sonore pour mettre en son toute cette histoire-là, et donc c'est trop bien. Je crois qu'il y a 2 épisodes qui sont publiés jusqu'à maintenant. Il y en a donc 10 en tout, et ça se publie de façon hebdo. Et donc en fait voilà, on les suit à travers la contre-investigation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le procès il a pas été? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas poursuivi ces pistes et ces pistes-là qui auraient innocenté Daniel Massé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde était tellement contre lui et machin? En plus donc Daniel Massé c'est un mec qui vit tout seul, qui est un peu frustré, qui est vénère, qui aimerait faire des trucs mais qui arrive pas à les faire. Donc c'est vraiment genre le coupable un peu trouvé quoi.
Et donc voilà, tous ces épisodes-là, c'est des épisodes de 20-25 minutes dans ces eaux-là. C'est trop bien, ça fout un peu les boules et vraiment des fois ça les gros sanglots dans la voix et des fois c'est rigolo et c'est vraiment trop bien. Et donc en plus c'est leur premier podcast à elles en tant qu'elles ont lancé leur studio avec ce podcast-là.
Trop bien.
Donc c'est deux meufs qui en plus sont vraiment trop cool et elles ont fait un travail de ouf et inchallah ça va payer, elles vont avoir plein d'auditeurs. Et vraiment c'est vraiment trop cool et c'est un gros taf quoi, elles ont bossé sur le truc pendant des 6 ou 7 mois. Voilà, donc c'est vraiment trop bien.
Comment t'as fait pour l'entendre en avant-première?
Bah, elle m'avait invité à l'avant-première de 1000 degrés. Donc c'est 1000 degrés parce que c'est la température à laquelle la boule de feu qui est sortie de cette boîte était.
Ok. 1000 degrés.
Mauvais titre.
Arrête, c'est une chanson de l'homme pâle.
C'est vrai. Ouais, c'est aussi une chanson de l'homme pâle.
Non, mais je trouve qu'on comprend pas de quoi ça parle. Et moi, ouais, ça me dérange toujours quand il y a un titre. Je sais pas ce que c'est, du coup, je vais pas cliquer. Tu vois.
Bon, après, il y a la vignette qui accompagne le truc. C'est une sorte d'explosion un peu designée. Donc, tu piches. T'as un sentiment, tu vois, de 1000 degrés, explosion. Tu fais,
après, heureusement que Cédric est là pour faire le pitch et que ça donne envie d'écouter.
Heureusement, mais de toute façon, Cédric est la perfection incarnée. J'ai failli te choisir en mini-kiff.
Tout ça. Mais ah tu non, l'as j'ai... pas fait, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur notre relation. J'ai failli dire des trucs sympas sur toi, mais...
mais parce que je veux que tu me fasses à manger.
Bon, ça c'est quand tu veux, tu sais. Ouais, ouais.
Et ben, pour ouais. finir, oui, donc elles avaient fait un truc assez marrant, c'était une avant-première dans un théâtre, dans le 20e, en plus okay. à 10 minutes de chez moi, ce qui était très bien. Et donc c'était rigolo parce que même l'expérience en soi d'être dans un théâtre avec une petite quarantaine de personnes à écouter un podcast... c'est super, c'est assez intéressant, c'est immersif, il n'y avait rien sur scène, juste t'écoutais, tu fermais les yeux, tu faisais machin, c'était assez marrant.
Ok,
étonnant.
Joli taf.
Ah bah c'est cool.
Ça donne très envie.
Ça dure combien de temps le podcast?
Bah 20-25 minutes par épisode et il y en a 10.
D'accord. Oh,
et cool. Je pense que moi j'attendrais qu'ils soient tous sortis pour les binger en fait, parce que à mon avis,
toi, t'as été perverti par Netflix.
Non mais mais même c'est pas. Clair. Mais l'idée d'attendre une semaine à chaque fois, je pense que c'est un truc qui peut-être se déguste mieux à la suite.
Ouais, possible. Bah après, moi, j'en suis un peu revenu. Moi, j'aime bien maintenant attendre. Tu vois, Game of Thrones, j'aime bien attendre une semaine chaque épisode.
C'est parce que c'est tellement nul qu'en même temps, il vaut mieux attendre.
Allez,
un peu,
on est parti sur Game of Thrones.
Moi, j'ai bien aimé le quatrième. Là, j'avais enfin l'impression qu'il se réveillait et qu'il se passait des trucs.
Bah, c'était moins merdique que l'épisode 3. Donc, si tu veux, revenant de la catastrophe de l'épisode 3, ça pouvait pas être
c'était
pire.
C'était le pire, le 3. Arrêtez de mais tu vois, le 2, il était bien. Le 1, ça allait. En fait, c'est le 3 qui vraiment.
Le 3, moi, m'a donné envie de fermer boutique, d'arrêter de regarder à tout jamais, de plus jamais regarder les saisons précédentes. Ça m'a fâché quoi.
Ah,
on dommage, voit rien. La ouais. scène avec les dragons dans le ciel est tellement moche du cul que même des vieux jeux vidéo auraient fait mieux. C'est mauvais. C'est écrit avec le fion.
C'est pas toi qui étais à l'épisode si. Dans le podcast.
J'ai un peu le seum parce que
en train de saler.
Aucune de mes prédictions. Non, moi j'ai fait l'épisode 2.
T'as fait l'épisode 2, oui.
Et j'ai donné mes prédictions pour l'épisode 3. Pff, ouais. Tout faux.
Ouais.
Parce que je pensais qu'ils allaient se donner la peine de se creuser le cerveau, en fait.
Ouais,
pas du tout. Tout est cousu de fil blanc de A à Z. Hein, c'est de la belle broderie anglaise.
Mais c'est fait
anglaise.
Exprès pour nous mettre l'ultime quenelle.
Alors, je
à
pense...
la
tu crois Alors, je pense pas.
Les épisodes nuls. Ah, et non, le 6, on va faire... Ah, en fait, on nous a bien brossé dans le sens du poil, là, toute la saison. On a arrêté de souffrir. Alors... Et là, il va se passer.
T'as écouté
j'espère que ça va être ça.
T'as écouté les podcasts aussi, de Mimi, parce que Mimi qui a vraiment taffé le sujet, je pense qu'elle est en train de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Et elle dit, selon elle, que les showrunners sont juste nuls. Et je pense, vu le truc, que
c'est extrêmement possible.
C'est pas impossible. Parce qu'elle regarde les making-of et tout, elle, tu vois, vraiment. Et les mecs, ils sont dans un délire de... on fait du fan service quoi, voilà.
Ouais, on fait
et donc on n'est plus en train de respecter la moindre logique, on est juste en train de faire plaisir.
Bah, c'est cool, ça qui est surprenant. God, c'est censé être surprenant. Et en fait, là, on s'attendait à des trucs de fou. En faisant pas des trucs de fou, là, c'est surprenant.
Exactement, je suis bien d'accord avec toi.
Là, c'est
mais moi
Naruto,
aussi, je regarde
là,
les making of. En réalité, je regardais les making of des saisons précédentes et ça ne disait rien du potentiel des saisons en rien, tu vois. Et je suis même pas sûre que ça. En fait, en effet, peut-être qu'il va y avoir l'épisode surprise. Qui va bien démonter toutes nos.
Mais peut-être.
Mais là, il reste deux épisodes.
Il faut pas. Il faut le
time. Non, mais j'y crois peu. Non, mais en fait, gardons cet espoir pour avoir deux belles semaines devant nous. Le cas échéant, nous pleurons chez nous.
Il y a un truc qui m'avait gonflé, justement, sur les showrunners et la bagarre et le fait que c'était tout noir et que vraiment, on n'y voyait que dalle.
On comprend rien, les gars.
Les showrunners, ils avaient dit, ouais, c'était pour que la bagarre, elle soit plus réaliste.
c'est des squelettes, ils attaquent des gens, il y a des dragons qui se bagarrent dans le ciel. Mec, parle pas de réalisme, ça n'a aucun sens. C'est quoi tu parles?
Bah, on sait pas,
la bagarre.
Okay.
Voir les squelettes.
Arrête, c'est pas ce qui se passe dans le Nord, Cédric, ok?
Non, je sais pas.
Je suis pas à Lille, il y a quoi? Toi, tu viens de Lille, qu'est-ce qui se passe dans le Nord?
Voilà, beaucoup de choses.
Beaucoup
tu
de
veux
zombies.
Pas savoir.
On sait déjà pas ce qui se passe dans notre Nord à nous, tu sais. Alors à Winterfell, je vais te dire.
Mais non, mais les squelettes, fais voir la bagarre avec les squelettes, arrête avec vos délires de fait sombre, on allume des torches, quoi, sérieux.
On va pas refaire le podcast Game of Thrones ou on fait le podcast Game of Thrones?
On l'aurait refait, ok. Ah bah, écoutez, si, le prochain podcast de Mimi, je raconte mes fanfictions. Mimi, elle a dit qu'elle adorait mes dénouements avec mes fins alternatives, voilà.
Ouais. Putain, j'ai trop hâte de savoir.
Mais moi, je suis une grosse vicieuse, en fait, c'est horrible. Hein. Mimi, elle fait, des fois, je te comprends pas, mais elle a dit qu'elle aimait bien... mes dénouements.
Ah bah, je suis sûre qu'ils sont meilleurs que ceux auxquels on va avoir droit.
On vous mettra un petit lien et on vous mettra aussi un lien sur, si vous ne l'avez pas encore lu, cet article où Mimi dit qu'elle adorerait lire, qu'elle adorerait aimer cette saison 8 de Game of Thrones, mais qu'elle n'y arrive pas et qu'elle est extrêmement déçue. Parce qu'apparemment, le problème d'avoir trop d'attentes envers les trucs, c'est qu'après, ils finissent par te décevoir. Si tu viens... Moi, personnellement, je m'en battais un peu les couilles. Et je suis, pour la première fois depuis très très longtemps. Et je trouve que effectivement, c'est un peu naze. Mais en fait, j'en attendais pas beaucoup plus. Donc voilà, quoi.
Mais en fait, cette saison, c'est juste une réponse à la saison 1. Parce que du coup, je regarde toutes les saisons en attendant le prochain épisode. Et en fait, toutes les scènes, c'est vraiment que des réponses au tac au tac à la saison 1. La saison 1 était tellement forte et était tellement abjecte que de toute façon, tu peux pas faire plus qu'un frère et une sœur qui font des choses dans une tour, qui rendent un enfant handicapé, qui coupent des têtes. C'est plus possible, non. Du coup, ils sont obligés de s'adoucir.
Ouais, je sais pas. Sans doute.
Laissez-nous être heureux.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, ouais. Cédric, pour 1000 degrés. J'irai écouter.
C'est bien noté, mon Cédric.
Uh-huh. Qui prend la suite?
Alisson. Son
t'as compris le système?
Ouais, ouais.
Mais tu disais que t'écoutes LMK. C'est...
Oui, j'écoute. Ah, bah, voilà. Avant, moins régulièrement qu'avant. Mais ouais, j'écoute. Je connais les mini.
Alors, qu'est-ce que t'as aimé dernièrement?
Beaucoup de choses, je suis en train de faire un tri dans ma tête. Si, le gala du Met.
Ah.
En fait, c'est mon mini kiff annuel. Et en fait, c'est depuis des années, j'ai des copines à qui je parle presque plus pendant l'année parce qu'elles vivent loin et voilà, la vie passe, tout ça. Mais on se parle toujours à ce moment-là pour parler de nos costumes préférés et tout.
C'est quoi le Met?
Voilà.
Le Met,
ouais.
C'est un musée à New York.
Ah.
Et en fait, le gala du Met, c'est une rédactrice mode qui a créé ça au siècle dernier pour avoir des fonds.
Anna Wintour.
Non.
C'est pas Anna Wintour?
Non, c'est pas Anna Wintour.
Mais c'est qui?
C'est une nana qui s'appelle Diana et qui est morte. Après, c'est Anna Wintour qui a pris la relève.
Oh, ah, j'aurais appris un truc today.
Ouais, et trop du coup, cool. J'adore. C'est tout ce que j'aime bien des gens snobs, insupportables, narcissiques, du gratin de New York. Mais non, en fait, c'est cool parce que... Enfin, je sais pas, c'est une image... bénéfique de la mode et de l'art, parce que quand il y a des événements, bah toi tu sais, Cannes et tout le monde scrute les tenues alors qu'on s'en fout, en fait on est là pour les films, alors que là c'est vraiment le tapis rouge qui compte parce que c'est un événement caritatif et il y a des trucs
et les
incroyables.
Costumes sont surtout zinzin,
c'est surtout les thèmes, enfin j'ai regardé des thèmes d'avant parce que du coup j'ai toujours été à fond, il y a Dragon de Manchourie, comment tu t'habillais comme ça tu vois ou le costume russe de je sais pas du 17e siècle, enfin des trucs tarés quoi, et c'est trop bien et chaque année j'apprends plein de trucs.
C'est quoi un dragon de Manchourie? C'est genre le cousin du dragon de Komodo ou
j'ai pas la ref, apparemment c'était sur de l'art chinois. Mais c'était en 1979, j'en sais rien, un truc comme ça.
C'est les dragons chinois avec des gros yeux, là qui...
Peut-être.
Sans doute.
D'accord.
Non, mais c'est trop bien, et du coup, les stars...
Mais j'ai pas trouvé sur Getty Images, à chaque fois je regarde pour retrouver les anciennes tenues, j'ai pas trouvé, j'étais deg. Et non, mais du coup, c'est cool, et cette année, c'est marrant, parce que j'en ai parlé à plusieurs autres personnes, dont la photographe de la grosse stuff, Shea,
ouais.
Qui est hyper cool d'ailleurs, et c'est vraiment son kiff, son univers, donc c'est cool. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rendait plein de gens heureux de s'habiller de façon hyper fantaisiste et tout. Et je comprends pas pourquoi c'est pas plus comme ça dans la rue.
Ah.
Par exemple, à Londres, je sais que moi, je me sens trop à l'aise à Londres. C'est la ville où vraiment je me fais plaisir. À Paris, alors que c'est une vision de la mode un peu bizarre. Enfin, c'est un peu perfecto, Stan Smith, slim. C'est une version de mode de Paris, quoi. À Londres, je me sentais bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens un peu dans ce délire comme ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est trop bête, tu vois, parce que j'étais dans un bar, on regardait les photos du Met avec ma pote, et il y avait des fleurs, et je kiffe mettre des fleurs dans mes cheveux. Et du coup, il y a une actrice de Riverdale, je sais pas si tu vois qui c'est.
Moi, je regarde pas Riverdale, Lily... mais laquelle
bah, je sais que t'aimes pas, mais la blonde.
Ah oui, oui, Lily Reinhart.
Ouais. Et elle était en Marie-Antoinette 3.0. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool. J'aimerais tellement voir plus de gens comme ça dans la rue. Et du coup, je m'amusais à faire ça dans le bar. Et je voyais les gens, ça les faisait trop rire. Ils venaient me voir et tout. Je me suis dit, bah, en fait, ça tue. Pourquoi je le fais pas si j'aime bien?
Et oui, pourquoi Exactement. Tu le fais pas? Parce que je pense pas qu'à Paris, on te dévisagerait, tu penses, si tu t'habillais de façon un peu excentrique?
Bah, déjà, dès que je fais des tresses, on me fait, t'as cru que t'es qui? T'as cru que t'étais Toriel dans Seigneur des Anneaux?
Ah bon? Mais tu traînes avec qui?
J'avoue.
Mais justement, je reviens là. C'est qu'en fait, bah, en fait, mes amis, eux, ils trouvent ça cool. Et c'est juste des gens dans la rue, bah du coup je m'en fiche. Et après, c'est des gens qui sont très. Pas comme Mademoiselle, qui me disent des trucs comme ça.
Et on s'en balèque, non? Des gens qui sont pas très comme
bah,
Mademoiselle.
C'est ça. Et du coup, j'ai un moment.
Ça va pas. Il y a pas que les gens de Mademoiselle qui comptent, il y a les gens qui pensent comme nous. Heureusement.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, ouais. Je dis juste à Alison, on s'en bat les couilles de leur avis.
Oui, c'est, mais, si toi, mais ça, je comprends si toi, que, ça convient. C'est normal que ça t'affecte.
À chaque fois, ils sont là, Sonson t'abuse, il m'appelle Prince Sonson quand je fais des trucs un peu extravagants. Et du coup, bah, je trouve ça nul, tu vois, laissez-moi être moi-même. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça, c'était mon petit kiff, Gala du Met, parce que toutes les conversations qu'il y a eu autour, je me suis dit, ouais, vas-y, en fait, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie.
Trop cool.
Bah, grave.
T'as un look que t'as préféré ou pas?
J'en ai eu plein. Bah, Ezra Miller. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, il avait des yeux. C'était incroyable.
Il était trop beau, ouais.
Il avait des yeux peints sur son visage et un masque.
On vous mettra un lien dans les notes du podcast
Jared
si
Leto,
vous l'avez pas vu.
Il avait une maquette de sa tête, une représentation de sa tête sous le bras. Il se promenait avec sa tête, c'était incroyable. C'était fou, c'était complètement fou. Et ben, en fait, après tout le casting de Riverdale, désolé, mais je les ai kiffés. Je les ai trop kiffés tous. Et c'était mes préférés. Ah si, et Janelle Monáe.
Ah ouais, ouais, très cool. Ouais. Mais moi, ma préf, c'était Emilie Ratajkowski. Je l'adore. Je la trouve déjà sublimissime. Je l'adore. Je suis trop jalouse, en vrai. Et elle avait une espèce de costume qui était celui que portait... Enfin, un similaire à celui que portait Cher...
Cher, la chanteuse.
Il y a quelques décennies maintenant. Et donc, elle a voulu lui rendre hommage. Et donc, elle a ce costume extrêmement décolleté, tout argenté et tout, avec des espèces d'énormes d'oreilles de d'elfes argentées avec un espèce de voile. Elle était sublime.
Mais ça me met tellement de bonne humeur.
Ah bah, je te comprends, moi, pareil. Mais si ça peut t'aider...
J'attendais la suite de ta phrase.
Si ça peut t'aider, on peut faire des sorties où on s'habille de manière nimpe avec plusieurs personnes et faire nos...
Même pour chercher le pain le dimanche à la boulangerie.
Grave.
On écoute du Beethoven dans la rue.
Non, mais je suis d'accord. En fait, moi, j'ai jamais eu de problème à exprimer mon excentricité entre grandes guillemets parce que je le suis pas non plus extrêmement. Mais j'ai jamais eu aucun mal à sortir dans la rue avec des vêtements que je m'appropriais, que je kiffais et qui étaient peut-être parfois un peu décalé, surtout quand j'étais plus jeune. Et je trouve que c'est une vraie, enfin c'est un vrai kiff. Enfin, moi, c'est vraiment une de mes passions, les fringues et la mode de manière générale. Donc
non, en fait, déjà dans la rue, parfois j'ai l'impression que les gens ils ont jamais vu de roue de leur vie. Enfin, des fois c'est dingue. Et du coup, même mes potes, ils disent, non mais déjà des fois c'est chaud et tu te plains. Si tu fais ça, si tu te balades avec une couronne de fleurs un mardi matin dans le 8e, alors que tu as pas un mariage, t'attends pas à ce qu'on te regarde pas, quoi, tu vois.
Une couronne de fleurs, c'est quand même light.
Bah, c'est vraiment basique, c'est quoi.
Ouais, pas forcément.
Bah, moi, tous les jours.
Femme mardi prochain, ouais, avec sa couronne de fleurs.
Tous les jours, moi, ma petite couronne de fleurs pour sortir.
Mais écoute, rendez-vous mardi matin à la boulangerie.
Mais ça te blesse, c'est ça, c'est que quand tes potes te disent vas-y, fais pas ça.
En fait, c'est pas que ça me blesse, mais en fait, je les comprenais pas, en fait. Et j'étais là, mais laissez-moi. Bon. Au pire, moi, je m'en fous que vous habillez de telle ou telle façon.
Mettez votre costard.
C'est juste, après, est-ce que c'est vraiment de leur faute? Non, c'est parce qu'on leur apprend aussi plein de choses. Et pareil, c'est un.
Non,
la déconstruction, c'est pour tout, tu vois. Et des fois, je porte des trucs et ils sont là, mais. Toi, t'as vraiment cru que tu vivais dans Disney, mais c'est pas Disney la vie.
Laisse-moi kiffer. C'est clair. C'est vraiment le seul truc que t'as à dire, c'est désagréable. Ne le dis pas. Oui, c'est vraiment. C'est vraiment, tu peux aussi ne pas partager que des trucs désagréables avec d'autres
Exactement.
gens.
Exactement.
Hein? Mais c'est même pas désagréable, c'est même pas méchant.
Quel col. Mais. Je vais finir par croire que t'es amoureux de moi, Cédric, à force de me tailler.
Ah, il y a un petit côté cours de récré, là. Tu sais, les petits garçons qui font chier.
Et s'il t'embête, ça veut dire qu'il t'aime bien.
S'il pouvait, il me tirerait les cheveux. Hein.
Héros et Thanatos.
Et j'adore ça, en plus. C'est vrai, j'adore ça.
Peut-être que tu vas mourir en te faisant tirer les cheveux.
Et oui, peut-être. Je mourrai comme j'ai vécu en aimant me faire attraper par la crinière.
Ah, une belle mort. La meuf qui se pend.
Eh, vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais jeune, j'adorais le plus grand cabaret du monde. Parce qu'à l'époque,
si j'avais... Je sais pas si vous vous souvenez quand j'étais jeune ce que j'aimais.
On en a déjà parlé ou...
Non, jamais. Ah, okay. Mais donc quand j'étais jeune, j'adorais le plus grand cabaret du monde. Et il y avait une meuf, elle se faisait tout le temps. C'était un peu le spectacle de fin avant Dani Larry quand même. Dani Larry qui était un très mauvais magicien. Kikou Dani.
Ah oui, et putain, y avait une oui, meuf...
Il y avait une meuf, elle se faisait suspendre par les veuches. Et en fait, donc t'avais une machinerie là, qui la secouait en tous les sens. Et donc elle était là, tenue par sa queue de cheval, à faire des rondades.
Elle est en train de
et ça
la
me passionnait. Voilà.
C'est ouf. Ça, c'est le déclencheur.
Et ouais.
Et hop, un nouveau kink. Oh.
Comme quoi, tu vois, la vie, parfois.
Incroyable.
Devant Patrick Sébastien.
Devant Patrick Sébastien, tout à fait.
Tu es si bizarre.
Bah oui, je sais.
Bah la juge pas. Il faut pas juger. Il faut pas
moi,
juger,
Alice. Je suis
Alice
toi alors. Avec tes couronnes de fleurs dans les cheveux, là, aussi.
Oh, une petite crue dans un Disney. Hein. Non, mais ouais. Très beau.
Ok.
Bah voilà, c'est tout. C'était mon histoire.
Kalinda, ton mini-kiff, alors profites-en.
Mon mini-kiff. Alors, accrochez-vous, ça va être très intello. Vous êtes prêts?
C'est second degré ou...
Je suis ravie, car pas plus tard que la semaine dernière, je me suis acheté un chapeau de cow-boy.
Yes!
Et c'est mon mini-kiff, mais ça aurait pu être mon gros kiff. Car pourquoi? J'ai toujours rêvé d'avoir un chapeau de cow-boy. Et j'ai réussi à en trouver un. J'ai réussi à en trouver un qui match parfaitement mon visage. Quand je le mets, je suis sublime. Et je dis ça en toute humilité.
Ah bah oui.
On l'a vu en story Insta.
Ah bah, exactement. Qui me suit sur Instagram saura que j'ai twiné.
Vous étiez aux États-Unis depuis un jour quand tu l'as acheté.
Je l'ai acheté au bout de 24 heures passées aux États-Unis. Tout à fait.
T'étais en Louisiane en plus.
Mais arrêtez de spoiler mon gros kiff. Et donc j'ai acheté ce chapeau de cow-boy. À un moment, en ce moment, je me trouve assez moche. Et alors ça n'a pas aidé parce que j'avais beaucoup de moustaches là pendant quelques semaines que j'avais la flemme de me faire épiler. Et du coup, je me suis trimballée avec non pas ma bite et mon couteau, mais mon chapeau et ma moustache. Et je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans mes baskets fois que j'ai eu possédé ce chapeau. Et donc je l'ai porté plusieurs fois déjà. J'en suis ravie parce que parfois, et c'est là mon point, parfois un petit truc qui semble dérisoire peut vous aider, vous comme moi, à reprendre du poil de la bête. Et depuis que je possède ce chapeau, je me sens
poil.
Beaucoup...
Poil, la moustache, MDR.
Et depuis que je possède ce chapeau, je me sens mieux. Donc parfois, un petit truc peut changer le cours, non pas d'une existence, mais d'une semaine, d'un mois ou d'un week-end. Et puis c'est déjà ça de prix. Voilà, c'est tout, c'était mon mini-kiff, je l'ai fait concis, voilà.
Waouh! Wow. Où est-ce qu'on peut le voir ce chapeau? Ah oui, grave.
Ah bah vous pouvez le voir sur mon compte Instagram.
Sur mon compte Instagram!
Cal Ramphel, si vous ne possédez pas de compte Instagram, créez-vous-en.
Ah bah t'as une photo là où t'es, bah, tu chouinises. Hein,
ah bah là c'est. D'ailleurs ma photo s'appelle Couchouin.
Ah bon?
En référence oui, à.
Elle s'appelle comment?
Couchouin.
Comme Cowgirl.
Mais chouin. Avec des chouins. En hommage à cette chanson de Caris, Chouin, 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 que Allison d'ailleurs m'a fait découvrir.
Ah yes!
Et qui dit la Gola, c'est peut-être une fille bien, mais nous, on préfère les Chouin, Chouin, Chouin. Et du coup, pendant un temps, j'ai dit ça pour toutes les trucs. Dès que j'allais faire mes courses, je lui disais à Naël, tu vois cette mandarine-là? C'est peut-être une mandarine bien, mais nous, on préfère les Chouin, Chouin, Chouin.
Mon Dieu, j'ai créé un monstre.
Ça doit être long. C'est clair. Tellement d'empathie pour Naël. Ça doit être long parfois.
Mais il y
sa
avait
vie.
Camille qui t'a appris ça, il me semble.
Ah bah oui, Camille est toujours bien placée pour m'apprendre tout ce qui est à base de chouin, pute et tout dans les chansons de rap.
Et c'était dans un Uber qui allait à la grosse teuf.
Tout à fait, comme quoi.
Hey, j'ai une bonne mémoire. Oh.
Le Mademoiselle Extended Universe.
Écoutez, Caris avant une grosse teuf.
Pas la même ambiance quand t'arrives à la grosse teuf. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Trop bien.
Voilà. Et toi, Fabrice Florent?
Charlotte Dance, ton mini-kiff.
Moi, je voudrais dire que j'ai refait du basket il n'y a pas très longtemps.
Ah, trop bien.
Parce que j'ai plus mal au dos. Mon dos est soigné désormais. Je n'ai plus de problème de dos. Et donc, qui dit plus de problème de dos, dit la capacité de pouvoir refaire de l'activité sportive sans avoir envie de crever ensuite.
Trop cool.
C'était quand la dernière fois que tu avais fait de la basketball?
En fait, j'y vais très régulièrement avec mes filles, mais je faisais que de faire des shoots parce que vraiment j'avais mal au dos. On va le dimanche après-midi souvent. On va passer une heure ou deux là-bas à shooter. Elles savent pas jouer trop au basket, mais ça les fait marrer. Et puis je leur apprends des petits tricks et tout, tu vois. Donc c'est très marrant.
Sachant que t'as joué au basket pendant super longtemps.
J'ai joué au basket
jeune,
pendant
hein.
20 ans. Et,
ouais.
Et j'ai arrêté comme un connard le jour où j'ai commencé à bosser parce que en fait ça me saoulait. C'était un truc où tu joues dans j'ai fait tous les bleds du nord à aller jouer dans les salles obscures le samedi soir
Warneton.
Ouais.
Attends. J'adore, on dirait des endroits de Westeros.
Bah ouais.
Ostricourt.
Armbootskapel. Templemar. Watigny,
on dirait un crew de rap.
Je connais aucun de ces endroits, je suis jamais
dans le nord. Bah non,
elle refuse de venir aller, je l'ai invité maintes et maintes fois, elle veut pas. Elle
est dans le nord,
c'est moche.
Ah non, je vais pas dans le nord.
Mais ah non, c'est bien, clair,
c'est bien.
Bah non.
Mais en fait, effectivement, il y a plein de bleds et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas. Et c'était bizarre. Mais samedi soir, en y repensant un petit peu, mais bon, c'était sympa. Et j'ai arrêté, j'ai quasiment arrêté. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai joué énormément. Je faisais parfois quasiment 8 heures par semaine. Je faisais 2 matchs par week-end. J'allais arbitrer.
Ah oui.
Je faisais de l'arbitrage en plus. C'était trop bien.
Trop cool.
J'adorais arbitrer. Et puis j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain comme une sorte de crise d'ado, mais à 22, 23 ans, où ça me saoulait. En fait, je n'avais plus envie de faire ça mes samedis ou mes dimanches après-midi quand je bossais le week-end. Et j'ai un peu de regret quand même, tu vois, d'avoir arrêté ce truc. Un jour, j'ai essayé d'aller dans un club là, dans mon quartier.
Dans quel type de club?
Un club de basket. N'est-ce pas?
Dans un club échangiste, ça s'est pas bien passé.
On pourrait penser à un sauna libertin.
Bah oui, j'étais venu avec mon ballon de basket en disant où est-ce qu'on met le panier.
Quelqu'un veut jouer avec les boules.
Mais il y a des endroits bien dans le nord. Moi, mon patelin, c'est Marc-en-Barœul. C'est un peu le King's Landing du Nord.
Ah, c'est clair. C'est clair.
Franchement, c'est bien.
C'est clair.
Oh, ça me fait peur, mais ouais.
Marc-en-Barœul, on dirait un chanteur de variété française.
Mais c'est ce pas... soir, Marc-en-Barœul.
Ça s'écrit CQ, voilà, à la fin. Marc CQ.
Marc
en Barœul. Bref.
Venez, je vous invite.
C'est trop bien. Et donc voilà, je me suis remis à jouer et en fait, je suis très heureux parce que c'est la première fois que je jouais avec des mômes. En fait, c'est trop marrant. Ils m'ont appelé monsieur. Monsieur, ils m'ont appelé
vous
monsieur.
Vous êtes l'arbitre.
Ils m'ont appelé monsieur, ils m'ont vous voyez, ça m'a fait rire. Et après, ils m'ont dit, monsieur, vous voulez jouer avec nous et tout. Je fais, ouais, si tu veux, ok, pas de problème. Et en fait, c'était la première fois. On a fait un 3 contre 3 sur un demi-terrain. Mais c'était trop bien. C'est la première fois que je rejouais depuis des années et des années, quoi. Ça m'a fait kiffer vraiment.
Tu m'étonnes.
Alors, le pire, c'est que j'avais des chaussures que j'avais pas ressorties, je pense, depuis au moins 10 ans. Et donc, mes chaussures collaient plus. Et donc mes baskets, tu sais, c'est des baskets spéciales, tu sais, des baskets qui montent un peu pour protéger les chevilles.
Comme Michael Jordan.
Exactement, voilà.
C'est le seul que je connais.
Comme celle de
comme
ce
celle
bon,
que je porte
comme Tony
bon Parker.
Parker.
Très peu visuel comme
premier
même.
Love, tu on le connaît. Voilà.
Et en fait, mes baskets étaient tellement vieilles qu'elles se décollaient. Et donc, en fait, j'ai fini par arrêter de jouer parce que mes baskets étaient complètement niquées. Là, tout ce week-end, je suis allé en racheter parce que je me suis dit.
Ah, trop bien, ça t'a redonné le.
Fait beau,
le...
Je retourne jouer avec les gamins. Hein. Hey gamin, on partage un panier.
Putain.
J'en ferai ça.
La personne qui fait peur.
C'est clair.
Bon ça.
Moi je vois un mec qui a peur comme ça de mes enfants.
Non merci monsieur.
J'ai joué contre des mômes mais qui avaient 17. Tu vois, c'était pas des enfants. Hein, Non, c'était des grands. J'allais pas jouer contre des enfants de 10 ans. Vas-y, regarde comment je te bolosse et tout.
Le mec qui fait 1m90, il bloque tout.
Ouais, c'est
désolé, mais bah
je peux te poser une question relative au sport.
Tout à fait.
Enfin, relative à ton sport. Quand je regardais les frères Scott, quand j'étais au lycée,
et bien,
t'as coupé ton micro ou
ça doit être le micro de Cédric.
Non, voilà.
Allô.
Ah. Bonjour.
Oui.
Oui. Donc, quand j'étais au lycée, je regardais les frères Scott. J'aimais pas trop, mais bon, peu importe. Et ils jouaient au basket.
Ouais.
Et ils disaient qu'il y avait un trick un peu qui est pour mettre le panier, de regarder un coin d'envoyer la balle ouais. comme si tu l'envoyais au coin extrême droite.
Exact.
C'est ça?
En fait, oui, tu l'envoies dans le. T'as un carré en fait ouais, au-dessus de chaque panier. Et en fait, tu l'envoies quand t'es sur le côté.
Ouais.
Tu utilises le carré et tu l'envoies en haut du carré. Et assez naturellement, la balle rebondit sur le carré et retombe dans le panier.
Donc c'était un vrai trick.
Ouais, bien sûr.
Putain, je suis trop contente, j'ai retenu ça. Ah, trop tiens.
Trop on appelle ça un bang shot aux États-Unis, un tir shot. Avec la planche.
Ouais. Et t'as jamais voulu passer pro?
Non. Ah, quand j'avais 15 ans, je voulais devenir pro de la NBA. Et puis après, je me suis rendu compte que. Non, peut-être pas 15 ans, plutôt que ça, quand j'avais 12, 13 ans. Et après, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais pas le niveau. C'est juste. On parlait de ça avec Wax, justement, dans une interview qui sortira bientôt. Parce que lui aussi est fan de basket et il voulait devenir pro de basket quand il était ado. On a eu un peu le même parcours. Et puis un jour, il s'est rendu compte que, bah, déjà, dans les sports d'une manière générale, t'as ton corps qui suit ou qui suit pas. Et en fait, c'est plus simple. Bah, tu vois, par exemple, Yvan. Mmh. Qui fait 2 mètres et 100 kilos. En fait, c'est plus simple pour Yvan d'être basketteur parce qu'en fait, il a déjà de base le corps qui va avec. Et donc, Yvan était vraiment pas très loin de devenir joueur pro.
Il fait
du basket aussi, Yvan.
Yvan, il a fait du basket pendant très longtemps. Il était au centre de formation de Pau Orthez, qui est l'un des plus grands centres de formation français. Voilà, donc il était parti.
Tu peux pas le bousculer, Yvan. Quoi.
Ah bah ouais. Toi.
Mais il est pas un peu épais pour jouer au basket? Pour moi, les basketteurs, ils sont plus comme toi, genre étroit.
Non, mais t'es un peu...
Étroit. Longiligne, filiforme.
C'est ça qui est génial dans ce sport, c'est que t'as vraiment... Dans ce sport, t'as toutes sortes de gabarits. Tu peux très bien réussir. De Tony Parker, là, qui a gagné le championnat NBA, etc., qu'on connaît un peu en France, il fait 1m80, il fait ma taille, quoi. Tu vois, il fait mon gabarit. Il est peut-être un peu plus large que moi, mais il fait vraiment mon gabarit. C'est un petit poulet. Et
t'as un truc de genre, les gros bastocs, ils sont en défense après, et ça court plus vite. Non,
et après, en fait, plus tu te rapproches du panier, plus t'es grand, normalement. Et donc, t'as notamment un mec qui est plutôt connu, qui s'appelle Shaquille O'Neal. Je sais pas si t'as déjà vu,
connais. J'entends son nom.
Qui fait
2m15
et 150 kilos, qui était un enfin, le mec, c'est un énorme bébé, quoi. Vraiment, 2m15. Il y a dans le.
2m15.
Non, mais 2m15, c'est un truc bébé. De maboule. T'as un truc où, dans les magasins NBA, ils ont mis leurs empreintes, tu sais, et leurs chaussures, pour que tu puisses voir. Tu peux foutre ta main. Et en fait, tu peux foutre assez aisément deux de mes mains dans une main de Shaquille O'Neal, quoi. Vraiment. Putain. C'est un truc de maboule.
C'est fou.
La balle, elle est toute petite pour lui. La balle de basket.
C'est zinzin.
Pour sa main. Bon, voilà, c'était ça. C'était
bah, c'est trop bien.
Ouais, je suis très, très heureux. 40
Comment
ans.
Franchement, c'est
les...
plus stylé parce que moi, quand j'étais petite, je faisais de l'escrime et j'ai jamais voulu passer pro. C'est vraiment de la. Enfin, personnellement, j'aime pas l'escrime. J'ai détesté ça, j'ai fait ça pour faire plaisir. T'as vu comment je me suis rattrapée? C'est de la. J'aimais pas trop l'escrime. Mes parents m'avaient forcé. En fait, à l'époque, je voulais trop pas faire de la peine à mes parents. Donc, j'avais dit OK. Et donc, j'en ai fait du coup 7 ans. Ce qui est long, 7 ans, quand tu te fais chier que tu détestes ça.
Ouais, c'est beaucoup.
Et en plus, j'étais
ouais.
assez médiocre. Voilà, j'avais une adversaire qui s'appelait Amandine et elle gagnait tout le temps. J'étais très en colère.
Je t'imagine tellement.
Ah bah j'étais très.
Ah, mais je paierais pour voir une vidéo
mais
de toi qui
clair.
Fait ça.
Ah bah, ton petit casque peut... d'apiculteur à faire.
On dit un masque.
Et péter un pot parce qu'elle a perdu.
Non, mais c'est ça clair. M'a filé beaucoup de poux cette histoire de masque. J'ai un ami qui a perdu un œil d'ailleurs à l'escrime. Oui, fou. On dit toujours de jamais enlever le masque avant d'être dans le vestiaire. Et en fait, ce con, il s'est battu avec un gars de manière un peu virulente. Il a enlevé son masque. L'autre lui a foutu le fleurissant, le faire exprès, bien sûr. Sous l'orbite, comme pas une orbite.
Un gote dans la vraie vie.
Et c'est l'orbite, oui.
L'orbite. C'est vraiment l'orbite. Et donc, l'œil a sauté. Aujourd'hui, il a histoire véridique. Et aujourd'hui, il a un œil de verre.
Vite bolos.
Ah, yes. Là, c'est plus qu'une vite bolos. Hein.
Albator.
Boum. Ah, et grave.
Comment on appelle les habitants de Marcq-en-Rambeul?
Sans transition.
Marcq-en-Barœul.
Les Marcq-en-Barœul et les Marcquoises.
Ah, voilà. Ça va, c'est plus simple que ce que je pensais.
Marcq-en-Belois.
Marcq-en-Belois, ouais, c'est pas.
Non.
Mais je peux poser une autre question sur le sport.
Oui.
Est-ce que le fait que toi t'en aies fait à un bon niveau quand même pendant longtemps, ça t'a donné envie de en faire à tes enfants?
Ouais. Et je suis un peu triste. Bah, j'en ai parlé dans un des laisse-moi kiffer, mais t'écoutes pas.
Non.
Donc.
Quel podcast? Là.
Quelle équipe?
L'un des trucs, c'est que l'un des trucs que je regrette,
c'est le boys club aussi.
L'un des trucs que je regrette entre guillemets dans l'éducation de nos filles jusque là, en fait, c'est que on n'a pas réussi parce que Kat, elle faisait du volley aussi quand elle était plus jeune, à les mettre au sport d'équipe. Parce qu'en fait, Kim, elle fait de la danse et Lina, elle fait du cirque.
Trop bien.
Et en fait, elles se démerdent plutôt bien toutes les deux. Mais on n'a pas réussi à les mettre dans un sport d'équipe. Et j'aurais adoré les pousser, entre guillemets, dans un sport d'équipe. Et pourquoi pas au basket, en fait, parce que ce sport, je trouve qu'il est assez cool et il est très complet. C'est à la fois un sport d'adresse, c'est un sport de, où tu dois sauter aussi, où tu dois courir, où tu dois être capable de à la fois attaquer et de défendre. Et tu peux pas jouer, tu peux pas, t'es obligé de jouer avec tes coéquipiers aussi, donc ça aussi c'est cool.
C'est peut-être pas leur personnalité.
Je sais pas, en fait je pense à un moment donné que en tant que parent, quand t'as des enfants très jeunes, tu les amènes, tu vois, dans des trucs. Après ça prend pas, mais en tout cas j'ai jamais pris le temps ou je me suis pris la tête à me dire elles vont tester, elles vont faire du basket. Ouais, l'un des trucs que je regrette c'est ça, parce que je pense que le sport de compète, ça forge le sport, la compète d'une manière générale, et le sport d'équipe, ça forge vraiment un caractère qui est assez positif et assez sain.
Toujours cette réaction, hein, au moment de la compète.
C'est pas grave, la compète.
Hein, pourquoi t'as réagi comme ça, Lisson ?
Il y a deux teams.
Parce que cette maison, mademoiselle, est une maison serpentard. Et je suis une pouf-souffle hippie.
Mais pourquoi tu dis ça ?
Non, parce que moi, on voulait me mettre dans des sports d'équipe. Et j'ai trouvé ça horrible. Ça me saoulait. En fait, ce qui me saoulait, c'est que je ne pouvais pas kiffer quelque chose sans que ça devienne une compétition. Ouais. Je voulais faire de la gym, bah, se dire qu'il fallait faire des compètes. Je voulais faire danse classique. Il fallait que ta pote, elle te torture à te faire faire le grand écart. Et ben, c'était chiant, quoi.
Ça devient plus un plaisir, oui.
Ouais, juste envie de même de le foot, le basket, le volley. J'étais là. Oh.
Ouais, mais c'est... Moi, je trouve que... Les filles, d'une manière générale, on les pousse pas à la compète. Et en fait, je pense qu'on pousse beaucoup plus les garçons à la compète, bah, parce qu'on les met plus naturellement au sport, enfin, dans cette société. Et qu'on a tendance à dire, les filles, c'est pas grave, en fait, elles vont faire de la danse, ou elles vont faire. Et en fait, enfin, ça, c'est mes observations depuis 13 ans, et c'est pas pour mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a un truc qui manque chez les meufs, d'une manière générale, c'est
après,
cet esprit de compète.
Après, ça peut être juste une personnalité. Enfin, je sais pas. Il y a des mecs qui n'ont pas l'esprit de compète, par exemple.
Oui, c'est pour ça. Mais je te dis, d'une manière générale, on a plutôt tendance à mettre les garçons dans des sports, et plutôt des sports d'équipe, ou plutôt il y a de la compétition. Et d'une manière générale, on a plutôt à tendance à pas mettre les filles dans des sports. Et je trouve que ça manque aujourd'hui dans... quand je vois comment au sein de l'équipe mademoiselle le terme compétition est pris, et tu viens de le dire, ah non en fait machin,
ah ouais, mais
il y a un côté,
moi même si, enfin je pense, enfin après si j'étais un monsieur, je sais pas,
ouais.
Je pense que si j'avais la même personnalité, bah c'est tout quoi, c'est pas une question de mon genre de pas aimer la compétition, je pense.
Mais tu peux pas savoir, c'est à dire que
bah oui, je
si,
sais,
si
mais...
tu es garçon, on t'amène et on t'envoie et on te renvoie.
On saura jamais.
Oui, voilà, c'est mais ça. Oui. C'est-à-dire que c'est compliqué de... Tu peux pas aujourd'hui te dire, si j'étais un garçon, je serais sans doute comme ça. C'est pas possible.
Peut-être. Bah, si j'ai la même éducation, peut-être.
Ouais.
Moi, je suis assez d'accord et je trouve qu'en effet, c'est un truc qui manque grave. Et moi, ça m'a manqué personnellement, c'est qu'on m'insuffle. Moi, j'ai naturellement l'esprit de compétition. Et...
Ah bon?
T'as pas nourri avec?
Et bah pas trop en vrai, parce que tu vois, mes parents m'ont toujours dit, enfin mon père
ton père il est plutôt dans
mon père il est, non même pas en fait, mon père il a envie que je fasse bien pour moi, c'est même pas en rapport avec les autres, tu
oui
vois.
Mais donc c'est en compète avec toi même
c'est en compète avec toi même mais moi j'aime bien être en compète avec les autres, c'est ça, c'est un vrai moteur dans la vie. Non mais tu vois, je le suis même avec mon mec, où j'essaie toujours de cuisiner mieux que lui, enfin machin, et alors que au final c'est moi qui mange, donc si ce qu'il fait c'est dégueulasse, bah c'est moi qui mange, donc c'est nul pour ma gueule. Mais je trouve ça dommage en fait, non seulement qu'en effet on pousse pas les meufs dès le départ à apprendre à travailler en équipe dans des sports où il faut apprendre à se défendre et à attaquer, ce qui pourtant donne une bonne ligne de conduite je trouve pour la vie après, tu vois, parce que tu vas devoir te défendre et attaquer dans certains autres moments.
Ouais.
Et je trouve qu'en plus, les gens qui ont l'esprit de compétition, on les shame un peu en disant, ouais, tu sais, l'important c'est de participer, sois gentil avec les autres. Mais si j'ai pas envie, si j'ai envie d'être meilleure que machine, tu vois, laisse-moi tranquille, encourage-moi justement. Ça veut dire que peut-être j'ai un esprit de leaduse, tu vois, pousse-moi dans ce sens-là. Je trouve que c'est dommage. Voilà. De toute façon, je pense qu'on n'encourage pas beaucoup les femmes à avoir des esprits
des
de leaduse et à être ambitieux et compétitrice. Parce que peut-être ça représente une menace même après.
C'est une mauvaise image d'une fille qui a l'espace. Enfin, pas une mauvaise image, parce que moi, en vrai, moi je trouve ça cool, si je suis pas comme ça, mais je trouve ça cool. Mais c'est vrai que, en fait, on accepte tellement plus des garçons. Tout de suite, une fille qui a l'esprit de compétition, on dit que. Faut que c'est une harpie, quoi. Enfin, c'est chaud.
Bossy,
quoi.
C'est ce fameux terme de bossy.
Exactement.
Ouais.
Tout à fait. Donc, stop. Laissez-nous. Avoir envie d'être meilleur.
Exactement.
C'est ou clair. Pas.
Ou décider de s'en foutre.
Mais ouais, donc oui, un peu des regrets par rapport à tes enfants.
Pas des regrets, on verra. Peut-être qu'en fait, elles vont démarrer.
Écouter ce podcast et changer d'avis.
Démarrer ta vie. Non, mais je leur en ai déjà parlé et tout. Hein, mais en fait, c'est pas grave, ça viendra ou pas à un
oui,
moment
oui.
donné.
Moi, surtout qu'elles pratiquent déjà un sport et c'est oui. plutôt l'essentiel, ouais. tu vois. Ouais, mais franchement, en cirque, ça a l'air trop stylé.
Le cirque, c'est très cool et en fait, ça gaine et tout. Elle fait du trapèze.
Oh, yeah.
Donc vraiment, oh, tu la vois, Lina, elle est stock, quoi. Elle est tcha comme ça, mais simplement, t'as pas un truc de compète. Et l'autre jour, d'ailleurs, elle me disait, il y avait la possibilité de faire un spectacle facultatif entre guillemets, et elle l'a pas fait okay. parce qu'en fait, elle est un peu à la cool et en fait, elle est un peu détente et voilà. Et après, elle m'a dit, putain, je regrette de pas m'y être lancée parce qu'en fait, j'aurais dû sans doute taffer plus. Mais je me suis rendu compte quand j'ai vu le truc qu'en fait, c'était trop cool et j'ai ouais. fait. Ah ouais, mais en fait, ça nécessitait de bosser en plus. Elle ouais, fait oui,
mais
c'est
du
vrai.
Coup, next time.
Mais voilà, voilà. Mais elle l'apprend.
Exactement.
Elle l'apprend, mais tu vois, il n'y a pas ce truc de ok, en fait, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de faire mieux.
Ouais, peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle avait envie de se dépasser
oui.
à ce moment-là.
Chaque chose en son temps. Tout à fait d'accord. Bon, voilà.
Merci Fab.
Avec grand plaisir. C'était cool de vous parler de basket. Est-ce qu'on passe au gros kiff
yeah.
Insérer ici un jingle gros kiff. 1.
Alors ouais, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Non, faut pas partir car prépare-toi maintenant. Ouais. C'est les gros kiffs. C'est les gros kiffs.
Gros kiff.
Alors Cédric, de quoi tu vas parler?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais il est insupportable.
Le mec
sketch.
Reprend sa liste. Mais non, mais attends, il a bien non, fait son travail.
Sais.
Il a fait une liste.
Oui. C'est
et
vrai.
Ça, c'est bien.
Mais tu choisis pas avant d'arriver.
Je voulais faire un truc. Non, c'est le gros chiffre, je l'avais choisi avant, mais en fait, je voulais faire un truc et j'ai pas eu le temps de le finir. Non, en fait, c'est. Non, c'est de la musique. C'est la sortie de l'album de Lizzo. Qui s'appelle
Lizopaïne.
Pierre.
Je quitte ce podcast. Non, l'album de Lizzo. Donc Lizzo, j'en avais parlé il y a très 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 longtemps quand elle avait sorti un titre quasiment dans les premiers épisodes.
Ça me dit rien du tout.
Alors c'était pas Juice, c'était celui d'avant, Fitness, que j'avais surkiffé, qui était bien sale et tout quoi. Et
je
après,
me demande si je suis là pendant les podcasts.
Non mais il y a que toi quand tu parles qui t'intéresse.
Mais non, mais pourtant j'écoute beaucoup.
En plus il est dans ta brigade.
Alors ça me dit rien du tout hein. Mais
et en fait Loulou, elle l'a passé Juice, qui est effectivement le premier single de cet album qui est sorti en janvier. Je pense de façon extrêmement répétitive dans la rédac, dans ses oui. écouteurs et à la grosse stuff. Donc qui est un excellent titre. Et en fait donc l'album est sorti il y a 2 semaines me semble-t-il. Courant mi-avril, donc il s'appelle Cause I Love You, C-U-Z, tu vois, la street.
Yes.
Et en fait, donc ce qui est marrant, c'est que c'est un album, Lizzo, elle a sorti 2 albums avant qui sont super géniaux, qui sont vraiment des gros albums de rap, donc l'idée par cette meuf qui est
n'oublie pas
géniale.
De bien parler dans ton micro.
Allô, bonjour,
si tu fais
ça va,
sale,
vous m'entendez
plus, tu comprends, c'est compliqué.
Oui. Et donc celui-ci, il y a un côté un peu, c'est son album de la découverte, là, il est un peu partout, elle est dans les charts dans une quinzaine de pays, donc c'est un gros carton. Et en fait, dedans, il y a donc c'est un album qui parle grosso modo d'amour. À peu près toutes les chansons parlent d'amour, donc ça parle de plein de choses, de trucs différents. T'en as une qui s'appelle. T'en as une qui s'appelle. C'est pas self love, c'est un autre truc. Ou en fait, elle parle de comment elle s'aime elle-même parce que vraiment les autres gens ils savent pas l'aimer comme elle s'aime. Donc que ce soit en se regardant dans le miroir ou que ce soit quand elle est dans son pieu, c'est Soulmate. Voilà, qui est une excellente chanson. Et donc en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle le fait. Enfin, Lizzo, elle a vraiment trop un style de ouf. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est super groovy.
C'est trop stylé, c'est une meuf qui est géniale et qui a un talent incroyable. Dès son premier album, elle était à Minneapolis à faire des featuring avec Prince. Vous vous souvenez, Prince ? Il est mort maintenant. Et donc, en fait, elle a bossé avec, donc avec plein de gens bien. Sur cet album, elle bosse aussi avec Reed et Hawk. Hawk, c'est un mec qui bossait beaucoup avec Alicia Keys et tout ça. Donc, un mec qui est assez groovy et vraiment stylé.
Alicia Keys. À l'ancienne.
Ah, tu la kiffes, wesh.
Ah ouais.
T'as fait un regard de mec qui
j'avoue.
Ah, j'ai kiffé Alicia Keys.
Je sais te parler.
Putain, c'est ton style.
Les meufs qui font du piano et qui ont une voix.
Mais attends, attends, moi je fais du piano et j'ai une super
voix.
C'est
le genre de beaucoup de personnes aussi.
Ouais, j'avoue, même mon genre à moi.
Ouais. Et en fait, dans cet album, bah, Lizzo, qui a une voix extraordinaire, en plus, elle en joue vachement. Donc, en fait, c'est, elle fait vachement, il y a plein de titres de rap, il y a plein de titres de dance, et donc, il y a quelques titres, effectivement, qui sont pas piano-voix parce que c'est trop, trop tranquille pour elle. C'est une meuf qui a la patate au cœur. Donc, il y a tout le temps, tous ces titres, il y a plein de trucs qui se passent en même temps, tout ça. Et il y en a un qui est particulièrement génial et c'est mon titre préféré. Et ce que je voulais faire, c'était faire une sorte de traduction vite fait des paroles parce que c'est trop bien. Qui s'appelle Like a Girl.
Comme une fille.
Attention,
donc.
Ça va être chaud déjà.
Comme une fille. Donc. Non, et en fait, je sais pas si je fais cet exercice, mais c'est vraiment le titre, il est trop bien, il est génialissime, c'est vraiment un putain de titre dance.
Tu veux pas nous le chanter
tout ce qu'elle
plutôt
dit à l'intérieur.
Oui.
Non. Vous voulez pas ça.
Vous voulez pas ça. S'il te plaît, ça change un peu.
Mais en fait, tout ce qu'elle dit dedans, c'est les meilleurs trucs du monde.
Alors qu'est-ce qu'elle raconte ?
Donc ça commence, elle fait oui, allez. Non. Donc ça, je vais juste faire un premier, juste le premier couplet en français, tu vois.
Le premier paragraphe.
Donc je me réveille ce matin avec comme l'envie de me présenter comme présidente, même s'il n'y a pas de précédent, on va pousser vers le changement. J'ai envie d'ajouter un petit peu d'œstrogène. Là t'as un petit break avec les voix qui font. Je paye mon loyer par moi-même, je fais ma life par moi-même. Après, elle fait les seuls ex. Alors, t'as un jeu de mots sur ex, X en anglais. Les seuls ex dont je care, dont je tiens compte, sont ceux qui sont dans mes putains de chromosomes. J'ai pas. Alors, très bonne blague aussi, celle-ci. J'ai pas vraiment besoin de toi. Je suis Macaulay Culkin, Home Alone. Home Alone. Titre de
Maman a raté l'avion pour les.
Maman a raté l'avion.
Ça marche moins bien.
Pour les non-linguistes.
Ça marche moins bien en français.
C'est vrai.
Jamais.
Bad bitch, diamonds in my collarbones. Je sais même pas comment la traduire celle-ci.
My collarbones. Collarbones.
Bah oui, mais.
Collarbones,
c'est la spine.
La moelle épinière.
C'est la,
la colonne vertébrale.
Non, c'est spine, colonne vertébrale. Mais je crois que c'est la continuité.
C'est la nuque en fait.
Ah, les vertèbres.
Les os de la nuque. Ouais. Donc elle a des diamonds dessus. Sugar Spice and I'm Nice. C'est une petite comptine anglaise qui dit ouais les garçons ils sont faits comme ça et puis les petites filles elles ont du sucre, des épices et elles sont gentilles. Ah. Et donc elle fait ouais vas-y je suis sugar spice and I'm nice, show me what you're made of. Donc moi je suis c'est quoi les autres compositions pour être une meuf? Crazy sexy cool baby with or without makeup, ça c'est une ref à TLC.
J'adore.
Donc voilà où ça dit.
Tu serais pas un peu traducteur.
Qu'est-ce qu'il est cultivé ce Cédric.
Non mais il est cultivé.
Derrière
ses
airs.
Mais il était sur Google Trad.
En mode. Non mais du coup le truc voilà ref à TLC en mode que t'es du make-up ou pas Balek en vrai tu t'en fous t'es belle quand même. J'ai rien à prouver. Là t'as un backup qui dit j'ai rien à prouver et je vais te montrer comment ça se passe. Et donc, en fait, voilà, toute la chanson, elle est vraiment en mode...
Girl power.
Comme ça, girl power. Et t'as toute une fin qui est vraiment génialissime. En plus, c'est les meilleurs trucs que j'adore dans les chansons. C'est que t'as la fin, et en plus, derrière, elle fait les bacs où elle part en couille en arrière, elle crie, elle fait... Et ça hurle et tout, ça gueule. Elle gueule des got nothing to prove derrière et tout, en mode...
Je n'ai rien à prouver.
C'est la fin du monde, quoi.
Que de linguistes autour de cette table.
Et donc en fait voilà tout le truc c'est vraiment le refrain c'est fais les trucs comme une fille like a girl si t'as envie de running le monde fais le like a girl si t'as envie de tout défoncer fais le like a girl jette les ballons like a girl feel bossy like a girl run the world like a girl I work my femininity, I make these boys get on their knees.
Je l'ai fait se mettre à genoux.
Donc voilà, je l'ai fait se mettre à genoux. Mm-hmm. T'as aussi une petite partie, if you feel like a girl, then you... Si tu te sens comme une meuf, t'es vraiment une meuf. Mm-hmm. Donc petite partie aussi, salut, inclusivité totale. Et parce qu'en plus, en fait, Lizzo, elle a aussi vachement défendu en fait la cause transgenre et particulièrement la cause transgenre noire, car l'espérance de vie d'une femme transgenre noire aux États-Unis, c'est 35 ans. Car vraiment, c'est un pays qui va pas bien. Donc voilà, ça lui tient vachement à cœur tout ça. Et en fait, tout ce côté like a girl, je trouve que c'est trop bien. Il faut se combattre, fight like a girl, cry like a girl, run, do your thing and run the whole damn world.
Trop bien.
Et en fait, c'est trop bien parce que, encore une fois, tout ce qui valorise cette espèce d'expression un peu pétée, like a girl, et tout ce qui la transforme et tout ce qui la renverse, en fait, c'est bien pour les meufs, mais en vrai, au fond, c'est aussi bien pour les mecs. Mm-hmm. Parce que, bon, la masculinité toxique, c'est construite à peu près sur le fait que
ça n'existe pas. Enfin, ouais. C'est comme le réchauffement climatique, Cédric.
Non, mais tu sais, vraiment, tous les marqueurs de masculinité, c'est tout ce qu'il faut faire pour ne surtout pas être comme une meuf. Tu vois, il faut pas pleurer, pas montrer des émotions, on veut pas être une meuf, tu vois. Et donc du coup, c'est ce qui l'homophobie et tout ça, on est vraiment sur le même type de marqueur. Donc en fait, tout ce qui va valoriser le fait de faire les trucs comme une meuf, en vrai, in fine, ça enlève aussi la pression. Si c'est ok, si c'est cool d'être comme une meuf quand t'es un mec, en vrai, t'as plus besoin d'avoir une masculinité toute pétée. Et cette chanson, non seulement le dit avec brio, mais en plus, il y a un groove de ouf et t'as trop envie de bouger ton petit cul dessus pendant que t'écoutes tout, 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 tout.
Il est mignon.
Et de hurler cette chanson.
Comme ça.
Qui est extraordinaire. Et donc, vraiment, tout l'album est super. Il fait 30 minutes, 9 chansons. Et c'est que des trucs trop bien.
Trop cool.
On vous mettra le lien dans...
Oui, dans les notes, en footnote, en note de pied.
Il y a moyen d'écouter. Et comme ça, vous saurez, grâce à Cédric, ce que signifient les paroles de Like a Girl, même si vous ne savez pas parler anglais.
Et bah, franchement, anglais. C'était un travail d'orfèvre. Bravo.
Ah non, mais
merci.
Bravo, Cédric. Et puis, c'était bien documenté.
Merci.
Bravo. C'est vrai. Pour une fois, il y avait toutes les informations.
C'est vrai.
En plus, vraiment, cette meuf, mais je la surkiffe. J'ai rarement des kiffs aussi puissants sur des albums. Et ça, vraiment, ça doit faire quelques mois, voire un ou deux ans que j'ai pas eu un kiff aussi ouf sur un album. Et vraiment, tout ce que fait Lizzo, c'est génial et c'est touché par la grâce. Donc, n'hésitez pas.
Oh là là.
N'hésitez pas.
Touché par la grâce.
Oh là là, mais de ouf.
Par la grâce.
N'hésitez pas à explorer tout ce qu'elle a fait. Elle, en plus, c'est une grosse fan de Paris. Elle avait fait une super chanson.
Cool. Ça tombe bien, dis donc.
Ah bah dis donc.
Non, mais elle avait fait une super
Est-ce
chanson,
que c'est une fan de Marc Ambarole ou pas? Peut-être que c'est. Peut-être elle est fan de Marc Ambarole, tu
en
sais
fait,
pas.
Non. Mais j'habite plus, hein, mais c'est juste, c'est mes terres, tu vois. C'est Winterfell pour moi.
Ouais, j'habite clair. Juste à côté, moi, tu sais.
Mais je sais, hein.
C'est quoi, tu connais
l'instit de tes filles?
C'est pas ton bled à toi?
En fait, j'habite à Lille, mais c'est à la frontière de Lille. Et le trottoir d'en face de chez WAM, c'est Marc Ambarole.
Ah, voilà. Marquois, Marquoise.
Oui, c'est-à-dire que juste de l'autre côté de la rue, on est à Marc-en-Barol.
Et t'as à quelques lettres d'être marquis.
Oh,
oh. Les marquis, la marquise.
Ouais.
En Barol.
Je suis sortie avec un marquis une fois.
Un mec de Marc-en-Barol.
Enfin, j'ai eu le touche avec lui, mais il était marquis, quoi.
Il était marquis.
Ah ouais, c'est vrai, je vous raconterai ça ultérieurement.
Ok, mais t'as pu le vérifier, il avait une carte de marquis ou
non,
genre...
Non, pas du tout, en plus il avait des dreadlocks, je me suis demandé longtemps s'il se foutait pas de ma gueule. Mais bon, je vous raconterai
okay.
ça.
Ok.
Ce sera pour un prochain épisode de MK.
Mon Dieu, j'ai hâte.
Alisson.
Oui, c'est moi, bonjour.
C'est quoi ton gros kiff?
Alors, j'hésite entre deux et je viens de choisir. Okay. Et c'est un gros kiff intense un peu.
Okay.
Et personnel. C'est pas un truc, c'est personnel.
On aime les trucs perso.
Oh, on adore.
Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est mon seul, peut-être, laisse-moi kiffer. Je vais tout donner là.
Fais
je vais
péter.
Tout donner. Je fais péter.
Arrête de teaser.
Ouais, mais j'aime bien. Alors, mon gros kiff, je vais faire encore plus teaser, c'est voyager dans le temps. Ouh.
Yes, mais j'adore. Meilleur gros kiff.
Attention, ça aurait pu être un kiff de ce week-end.
T'as déposé
mon
un
gros kiff, c'est une story time.
Cédric, il voyage tous les jours dans le temps dans sa tête.
Moi aussi. Non, mais vraiment, je vais essayer de me concentrer. Le début est légèrement triste, mais la fin est très cool.
Ok.
Cool.
Alors, j'ai envie de rigoler. Oh là là,
on va dire un épisode, vas-y.
Il était une fois une petite Sonson, une petite Alisson de 11 ans qui a perdu son grand-père. Mm-hmm. Et avant de mourir, il a perdu sa mémoire, ses souvenirs, et il nous reconnaissait plus. Quand j'allais le voir, il me disait oui. J'étais à la pêche hier avec mon papa et enfin, du coup, ça m'avait un peu décontenancée de voir la figure de mon grand-père, le seul que j'avais connu, enfin mon grand-père de sang, perdre ses souvenirs. Et en fait, très vite, je me suis dit, ouais, en fait, un être humain sans ses souvenirs, eh ben, c'est plus lui, c'est plus sa vie. En fait, on dit, oui, la santé, machin, tout ça. Mais les souvenirs, les gars, en fait, c'est vraiment tout. En fait, je préfère perdre mes jambes, mes bras que mes souvenirs. Enfin, c'est trop bizarre. Et j'ai eu cette réflexion super vite. Et j'avais déjà un journal intime depuis toujours. J'écrivais déjà des fanfictions dedans. De Mimi et Lulu, les petites souris. En fait, je voulais que l'histoire, elle continue et tout. Bref, on s'en fout. Mais du coup, j'avais déjà écrit plein mal de trucs. J'avais plein de journaux. J'écrivais vraiment mes émotions. J'étais une enfant un peu perchée. Et en fait, quand j'avais 11 ans, j'ai décidé, OK, je vais me poser et je vais écrire tout ce dont je me souviens de ma vie. Enfin, de tous mes souvenirs.
T'as fait ton autobiographie.
Ouais, à 11 ans. Et j'ai continué. Et depuis que j'ai 11 ans, en fait, ça, il n'y a que 4 personnes, je crois, dans le monde qui le savent. Et du coup, c'est bien rangé, c'est bien à clé, quelque part.
Alors, il y a un peu plus de 4 personnes désormais, vu que tu
viens
de raconter.
Je sais. Et du coup, c'est pour ça, c'est un truc, c'est un des plus gros secrets de ma vie. Mais je trouve, en fait, vu qu'il s'est passé un truc récemment, en fait, j'ai trouvé ça trop fou. C'est mon gros kiff. C'est que tous les mois, en fait, après, des fois, pendant 2 mois, j'écrivais pas si je voyageais, mais quand je rentrais, j'écrivais. Je me pose et j'écris. Et j'ai toujours voulu écrire de la façon la plus objective possible pour si un jour je perds ma mémoire ou j'ai envie de replonger dans mes souvenirs, ce ne soit pas des méandres d'adolescente, même si c'est un peu, genre quand j'avais 16 ans, c'était un peu drama et tout, tu vois, mais c'est normal.
Ah bon ? Ah, mais c'est les meilleurs, ceux-là.
Étonnant.
Aussi.
Bah non, du coup, ça m'a saoulée parce que j'étais trop dans l'affect, tu vois. Moi, je voulais vraiment un récit clair, net, parce que si un jour j'ai des enfants ou des petits-enfants, mais enfin, je sais pas encore, ça dépend si la planète est là et tout, tu vois, je sais pas.
Ok, oui.
Il y a des grandes chances que je sois la tati gênante qui boit des mojitos après le Pérou, tu vois.
Tiens, mis mes mémoires.
Avec ta Kalindos.
On va mourir ensemble, bébé.
Oh bah, quand tu veux.
Ah
bah,
surtout avec des couronnes de fleurs dans les cheveux.
Mais oui, voilà.
Mais est-ce que t'écris à la première personne?
Oui, bien sûr.
Ok.
Oui, bien sûr. Ouais, c'est objectif, mais oui, j'écris moi ce qui s'est passé, les gens que j'ai rencontrés et tout. Et j'ai toujours dit, je ne lirai jamais jusqu'à ce que je sente que mon cerveau déraille des années plus tard et ça me fera trop plaisir de retrouver tout ça. Et en fait, il n'y a pas longtemps, pour des raisons personnelles, j'avais envie de relire une année. Et je l'ai fait, et du coup, forcément, comme j'ai aucune volonté dans la vie, j'ai tout relu. Et je m'en suis voulu au début. J'ai tout relu. Et en fait, j'ai trouvé ça dingue parce que j'ai oublié tellement de choses dans ma vie. J'étais une enfant tellement lucide. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pense que je ne rends pas fière la petite fille que j'étais pour certaines choses et que je la rends très fière pour d'autres. Et voilà, je trouve ça fou. J'ai l'impression que j'avais envie de checker la mini-moi qui a fait ça parce que c'est une idée incroyable. Et en fait, j'ai eu un recul d'un seul coup sur ma vie. Et enfin, je me demandais pourquoi j'avais arrêté de faire des choses qui me plaisaient. Et j'ai lu, j'ai compris pourquoi j'ai l'impression que des gens me manquaient, pourquoi je leur parlais plus. Plein de choses comme ça. Et c'était fou. Du coup, je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé parce que j'étais vraiment drama au possible à une époque. Et j'étais touchée, j'ai pleuré. Des fois, je me souvenais pas. Mais en fait, on rencontre des gens, pas des gens bidons, mais en fait, j'ai rencontré des gens. Et dans la moi pré-ado ou petite fille, c'est des gens de fou. Et en fait, j'avais oublié leur existence parce que en fait, je les ai côtoyés très peu ou c'était juste le temps d'une soirée ou d'un mariage ou je sais pas. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, c'est pour ça aux gens, je vous conseille vraiment de le faire parce que je pense que quand j'aurai 50 ans, je pense que je vais relire, par exemple, cette année, je me dirais, mais qu'est-ce qu'elle était conne, la moi de 25 ans, elle se prend la tête sur ça maintenant. Et voilà. Et c'est mon gros kiff d'avoir fait ça il y a une semaine et demie.
C'est trop bien, ça m'a donné des frissons.
C'est trop mortel.
Et ouais, en plus, c'est trop bizarre, mais j'ai toujours eu peur de l'Alzheimer et tous ces trucs. Ouais. Et après, bien sûr, tout ça, tous ces carnets, ça me stresse d'avoir toute ma vie, vraiment toute ma vie. Je parle, tout le monde, là, vous avez vos noms dessus, parce que je vous ai côtoyé. Et de me dire que j'ai tout ça à portée de main de quelqu'un, c'est hyper angoissant. Ça a failli partir en barbecue plein de fois.
Ah, parce que tu voulais les brûler.
Ouais, des fois, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert? Viens, je brûle, en fait, on s'en fiche, faut vivre et tout. Et en fait, non, je suis contente de ne pas l'avoir fait et d'avoir eu ça, là, il n'y a pas longtemps.
Mais c'est absolument génial, parce que c'est ce que tu disais, tu pourras le passer à tes... À tes enfants ou à tes petits-enfants.
Maman, elle était starbée du cerveau.
C'est une richesse folle, tu te rends compte?
Ouais, non, mais je suis trop contente d'avoir ça et de continuer. Et je sais que je le ferai, quoi. Parce que, par exemple, mon grand-père, en fait, c'est vraiment tout autour de lui, quoi. Parce que, En fait, il y a plein de questions. Enfin, quand il m'a dit qu'il allait à la pêche avec son père, et moi, ça m'a fait bizarre parce qu'il m'en avait jamais parlé. Je le connaissais en tant que grand-père. Je sais pas quel homme il a été. Et en fait, j'aurais trop aimé savoir qui était la première femme dont il est tombé amoureux, ou lui poser des questions parce que c'était la personne qui me ressemblait le plus maintenant dans ma famille avec du recul. Et là, moi, femme, on va dire, et ben, en fait, elle regrette trop plein de trucs. Il m'a jamais parlé de la guerre d'Algérie, ou même des trucs bidons, enfin, de comment il était avec ma mère, ses sœurs, ses frères. Et voilà, j'espère que si j'ai des gosses, et ben même si je parle de trucs un peu limite, j'ai pas trop envie qu'ils sachent ma vie sexuelle, par exemple, et ben c'est pas grave en fait, parce que ça peut répondre à des questions peut-être qu'il ou elle.
Non, mais moi je kifferais trop lire genre la partie drama de ma mère à 16 ans qui écrit dans un journal. Genre, c'est
c'est génial.
C'est trop bien, ils kifferont en fait.
C'est un outil formidable en fait. Ah non, t'as trop raison. Est-ce que c'est un truc que tu fais comment tu procèdes? Est-ce que t'as établi une routine ou.
Ouais.
Ah ouais?
Ouais, en plus, je suis très peu. En fait, c'est bizarre, mais quand j'étais dans une enfant très sérieuse, très comme ça, et à partir de 18 ans, j'ai vrillé, j'ai fait ma vie. Mais même quand j'ai voyagé, et c'était un peu chaud parce que je vivais dans une maison, c'était un peu l'auberge espagnole avec plein de nationalités. Du coup, ça chafouinait un peu dans tous les coins. Et du coup, à tenir un journal avec des Français dans ma maison, j'étais pas très bien. Et je suis sûre que j'ai un de mes copains de l'époque qui était français, qui vivait là, qui a dû lire, j'en suis
certaine. Tes mémoires.
Bah non, mais du coup, j'avais juste un carnet et quand je rentrais en France, je remettais tout au même endroit. Mais du coup, j'étais un peu en stress d'avoir ça. Du coup, je mettais en ma valise et je fermais à clé. Mais j'y tenais, quoi, parce que je savais qu'il fallait que j'écrive sur le moment. Parce que c'était fou, tu vois, et il fallait vraiment que ça soit maintenant et pas 5 mois après. Mais ouais, non, ils sont tous les mois.
C'est trop bien.
Ouais, c'est clair.
Moi, j'ai ma maman quand j'étais jeune, elle a écrit un petit peu sur elle. Elle a écrit des pièces de théâtre. Et en fait, quand je suis tombée dessus il y a quelques années, j'ai dit mais c'est toi qui as écrit ça. Et je savais pas que ma mère écrivait, tu vois. Et j'ai lu ça. Et même si c'était de la fiction, j'ai eu l'impression de découvrir une autre facette de ma mère. Tu vois, je me disais attends déjà, je savais même pas que ma mère écrivait des pièces de théâtre. Après, elle me disait bah oui, mais une fois j'ai lu à la radio ça et puis ça aussi. Enfin, je sais pas quoi. Et j'étais là mais te rends compte le nombre de trucs que tu ne connais pas, des gens qui t'ont donné la vie. Moi, je connais pas le nom de mon grand-père paternel.
Pareil.
Je sais pas. Voilà. Et je sais pas ce qu'il a fait de sa vie. Je sais qu'il a été vendeur de pommes de terre, qu'il a fait de l'île Maurice à l'île de Rodrigue pendant des années. Mais en fait, hormis sa fonction sociale, son travail, bah, je sais pas quel mari non plus il a été. J'y connais rien. Mon père n'a jamais voulu m'en parler. Et une fois par an, il me dit, aujourd'hui, c'est la mort de mon père, mais il est mort il y a tellement d'années. Voilà. Je ne sais rien de mon grand-père. Pourtant, un grand-père, c'est quand même très proche en termes de générationnel, vois. Donc c'est génial.
Les photos, c'est pas assez. Les photos pour moi c'est rien. Enfin les moments les plus fous de ma vie, et je pense que c'est les moments les plus fous de la vie de mon grand-père par exemple. Et ben il prenait pas des photos. Enfin moi je prends pas des selfies. Oui. J'ai pas des vidéos des moments les plus forts de ma vie. Et il y avait que en les écrivant après coup que je pouvais garder un petit peu d'intensité de ces trucs, tu vois, de ces petites pépites qui se sont passées, tu vois. Et voilà. Et je trouve ça trop cool. Et maintenant, j'ai peur que ma famille tombe dessus. Il faudra bien que je range tout quand j'y retournerai.
C'est fou que t'aies peur que les gens tombent dessus et pas peur de les perdre.
Bah en fait, post-mortem, ça me dérange pas qu'on les lise.
Mais pourquoi?
Bah non, mais là c'est juste... si les gens ils veulent me poser des questions sur mes souvenirs, bah, je suis là encore pour répondre.
Okay.
Et ouais, c'est ça.
Mais ça a l'air d'être vachement plus les feux de l'amour dans tes carnets, par contre, tu vois.
Oh là là.
Plus drama et tout.
Ça dépend des périodes.
Une série.
Non, mais c'est trop passionnant.
Mais en plus, c'est un truc trop bizarre, mais je sais pas si vous connaissez le film The Notebook.
Ah bah oui.
Et ben la fille, elle s'appelle Allison, elle perd la mémoire, elle a écrit
elle
sa
rousse.
Vie. Et ça, je l'ai vu, mais des années après, parce que c'est sorti plus tard. Moi, je faisais déjà ça, et j'ai une copine qui m'a dit, regarde ce film, tu vas flipper. Et j'ai regardé, ouais, elle est rousse, elle s'appelle Allison, ouais. Et elle fait ça. J'étais, oh là là, je vais perdre la mémoire, c'est sûr dans ma vie, c'est obligé. Du coup, je suis trop contente d'avoir ça.
C'est vrai que c'est exactement la même personne.
Ouais.
Putain, c'est fou. Voilà. Zinzin. Mais tu sors pas avec Ryan Gosling, ce qui quand même enlève une ressemblance.
J'y travaille.
Petit à petit.
Franchement, c'est un modèle pour moi. C'est vraiment un truc que j'adorerais faire si j'en avais la rigueur. Mais je trouve que c'est un outil formidable.
Mais tu le vois pas, hein. Tu te poses. Enfin, ça a pas du tout. Des fois, enfin moi, enfin ça dépend des mois. Il y a des mois où je vais écrire plein de trucs. Et il y a des mois où il y a un paragraphe. Tu vois. Ah pardon. Et voilà.
Ah, c'est cool.
Moi, j'avais
c'est
un prof bien. De français à l'époque du lycée qui me disait tout le temps écrivez votre journal intime, écrivez des journaux intimes. Nous, on se rembattait tous les couilles parce que on disait ouais, ça doit être ta sœur. on était des ados normaux, donc un peu relou et un peu gogolus.
Bonjour à tous les ados gogolus.
À l'école, devant les profs de français. Tu vois, clairement, c'est pas papy le prof de français que tu vas écouter. Et il avait tout à fait raison.
Car mais... en vrai, on, devant, on faisait genre Azarma, et après, je sais qu'on était plusieurs à avoir écrit, on était plusieurs à avoir suivi son conseil et commencé un journal intime sur le côté. Mais de face à lui, on faisait Noël ouais. Jamais. C'est quoi ton délire?
Je trouve qu'il y a une dimension en plus du journal intime dans ce que dit Alison, c'est cette volonté de transmettre aux gens d'après. Mmh. Et je trouve que c'est, tu parlais de ta lucidité en tant qu'enfant tout à l'heure, mais je trouve que ça, en fait, en dit long sur ta lucidité aussi en tant que jeune femme, qui est que jeune femme, on le restera pas éternellement et ça va passer très vite, et que viendra un moment, il faudra se poser cette question-là, et ce moment-là, ce sera peut-être trop tard pour écrire les mémoires. Donc, ouais. Que tu les fais si jeune, c'est un degré de lucidité que moi j'ai pas, par exemple. Et que je vais peut-être me mettre à avoir, parce que en effet, c'est, je trouve un super outil plus tard, non seulement de communication avec les gens qui viendront après toi, et un moyen de pas mourir éternellement et d'avoir quelque chose de toi qui va rester sur terre.
Mais tu sais qu'en plus j'ai une tante qui est plus jeune de 10 ans que ma mère et ses autres frères et sœurs, et en fait quand j'allais chez ma grand-mère avant, il y avait toujours sa chambre d'ado où elle écrivait des paroles de Jean-Jacques Goldman et tout sur les murs. Et bah c'est des trucs cons, mais en fait ça me faisait trop du bien de voir que bah elle avait été comme moi. Enfin, moi, j'étais hyper jeune, mais je savais que j'allais passer par ça. Et j'étais trop friande de savoir plein de trucs sur la vie de ma mère, par exemple. Et je sais rien de ma mère avant ma naissance. Avant ses 29 ans, je sais rien de ma mère. Mais et quand je lui pose des questions, elle ne me répond pas.
C'est fou.
Ah bon ?
Ouais. Parce qu'elle fait « Ah, mais pourquoi tu poses toujours ces questions-là ? » Après, c'est son choix, elle a le droit. Mais moi, je sais que si j'ai des enfants, eh ben, en fait, je voudrais pas... je voudrais qu'ils sachent qui je suis, toutes les bêtises que j'ai faites... Que ouais, j'ai pris des mauvaises décisions, mais j'ai fait des trucs cool et c'est pas grave si des fois tu te sens toute pourrie alors qu'en fait c'est pas grave, ça va passer et voilà. Et ma mère elle est pas comme ça, c'est tout, mais bon. Après, je suis dans l'excès aussi, hein. Je suis pas toujours plein de questions, genre c'était qui ton premier mec et tout, elle était là, mais laisse-moi tranquille.
Tu es un puits de lumière, Alison.
Un puits de lumière, bah écoute, on me l'avait jamais dit.
Et bah voilà, c'est fait.
D'être un puits.
Mais un puits.
Un astre.
Ah, c'était trop bien, c'était un des meilleurs kiffs de tout, l'histoire
de
du podcast.
De toute l'histoire de...
Ah, c'était très cool.
Et il y en a eu beaucoup des...
Niquez vos races, putain, depuis le temps qu'on fait ce podcast.
C'est Cédric qui a dit ça, hein, c'est pas moi.
Enfin, Cédric, j'en peux plus de ta vie.
Vas-y, c'était intense.
C'était intense. Mais et oui. C'était beau, merci Alison. Je t'aime encore plus désormais.
De rien, je te ferai lire avec mon année 2006, elle est bien.
Il y a quoi?
Rien, je sais pas. Je
okay. Oui, elle fait un peu ça aussi, elle relit ses... Ouais, bon, il n'y a pas le même degré que toi, mais elle lit son journal intime. Ouais.
Kevin Dash.
Alors moi, mon gros kiff...
Je sais ce que c'est.
Oui, bah... Sherlock Holmes.
Me fait tirer dessus, j'ai rien demandé.
Bah, je suis partie en vacances, voilà, ouais, c'était, ça va être mon gros kiff. Mais en fait, mon kiff va rejoindre le tien, Alison. Peut-être que ça va être mieux, on ne sait pas. Esprit de compétition.
La compète, elle est hall, la compète.
Non, non, pas du tout, juste moi, j'étais en Louisiane la semaine dernière. Et je suis partie avec ma mère, son mec et mon mec à moi. Pour la faire courte, c'était un voyage absolument magnifique. Je connais pas mal les États-Unis. J'ai fait plein de destinations aux États-Unis et j'avais jamais été j'avais jamais été en Louisiane et on était précisément à la Nouvelle-Orléans. Et il y a plusieurs choses que j'ai aimées, donc je vais vous en parler. Et d'abord, j'ai aimé la Nouvelle-Orléans parce que c'est très beau. Et en fait, c'est un héritage architectural qui est superbe, un héritage culturel surtout, qui en fait, la Nouvelle-Orléans, c'est un brassage social de plein de d'ethnies. Et en fait, on parle souvent des Cajuns, enfin des Cadiens en français d'ailleurs, mais en réalité, les Cajuns n'occupaient qu'une toute petite partie des immigrés qui sont venus vivre à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. Mais en réalité, il y avait énormément de gens. Et donc, la Nouvelle-Orléans, c'est super parce que c'est la naissance notamment de la musique jazz. C'est quand même formidable. Donc nous, on a passé journée notamment à faire la tournée des bars à jazz.
Cette story était folle.
Et c'était trop bien. Et je suis notamment tombée complètement amoureuse d'une femme qui... Oui, non, mais vraiment, elle était dingue. En fait, je croyais qu'elle était jeune, mais en fait, elle s'est approchée de moi, elle avait bien 45 ans. Donc, je me suis fourvoyée dans le noir.
Ça arrive à des gens très bien.
Ça m'arrivait avec Cédric la première fois, j'ai cru qu'il était jeune, et puis en fait, non. Et un petit taquet. La gratuite.
T'as cru aussi qu'il était... Tu es un puits de lumière, Kalindi.
Juste un puits, en fait. Mais...
Une mare de haine.
Et donc ouais, par exemple, on a fait cette journée, la tournée des bars, c'était beaucoup trop cool. Et donc je suis tombée amoureuse de cette femme qui avait une voix, mais juste c'est tellement incroyable. Enfin, je sais pas, à un moment donné, elle s'est levée, elle a commencé à chanter. J'étais là, est-ce que c'est cette voix qui sort de ce petit corps? C'est quand même incroyable. Et en fait, j'avais la chance d'être avec mon beau-père qui est un passionné de jazz, avec ma mère qui est musicienne. Elle joue du piano depuis 50 ans et elle chante. Elle a appris à jouer du piano pour s'accompagner parce qu'elle aimait chanter. Arrêtez de vous. Pourquoi tout le monde rigole quand je raconte mes kiffs?
Mais non, c'est trop mignon.
Pourquoi? Mais parce que tu m'amuses. J'aime bien comment tu parles.
Tu m'amuses. Amuse-nous, bouffon.
Amuse-nous, bouffon.
Fais-nous rire.
J'aimerais trop être un ménestrel et un flibustier à la fois.
Un ménestrel flibustier avec un chapeau de cow-boy.
Putain, c'est mon nouveau métier. Et flibustier, c'est un pirate, hein?
Oui.
Ouais. Et et ouais, donc on était dans ce bar, c'est génial. Et donc j'avais la chance d'être accompagnée de gens en plus qui s'y connaissent un
érudits.
Peu, qui sont contents, qui sont érudits, ouais. Et qui sont surtout contents en fait de partager ce moment, tu vois. Genre, ça m'aurait, moi le jazz à la base, c'est pas la musique que je préfère. Et en réalité, j'ai complètement changé d'avis mais sur le regard que je porte sur le jazz.
C'est pas la même chose.
Exactement. Moi, je m'attendais à du jazz d'ascenseur et là, les mecs ils se lèvent.
Ah bah oui.
Il y a des cuivres de fou. Les meufs elles dansent, elles sont là.
Et tout, fan de la Nouvelle Je connais le jazz à cause de Christophe Maé.
Mais enfin.
Désolée, voilà, c'est tout.
Non, La La Land aussi. Mais qui était ma seule œuvre de jazz. Mais voilà, donc en fait, j'ai vu le jazz sous un nouvel œil et j'ai même bu un peu de whisky et j'étais là en buvant un peu de whisky et en écoutant du jazz et je me sentais hyper adulte et puis et il faisait chaud, j'étais moite, je transpirais, j'avais mon chapeau de cow-boy, les cheveux un peu humides et je sais pas, j'ai redécouvert une sensualité perdue quelque part.
Ouais, non, mais si, ouais, c'est bien. Non, mais en plus, il faisait 40 degrés encore. Il faisait genre super chaud, donc. Enfin, non, mais c'est un vrai truc, c'est que la moiteur.
C'est vrai que ça explique la moiteur, c'est vrai.
La moiteur de la. C'est bâti sur un marais, donc il fait très chaud, c'est très humide. Donc
bah oui, c'est ça.
Vachement moite et ça participe vachement à l'ambiance.
Bah, je suis d'accord, exactement. Et donc, il y a eu ce truc des bars à jazz où j'étais presque émue, en fait, de partager ça avec ma mère, mon beau-père et mon mec. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, on a fait le Bayou. Et en fait, je recommande à tous les auditeurs, si vous allez en Louisiane, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lectrices qui m'ont, enfin, beaucoup de mes abonnés qui m'ont écrit, va pas dans tel bayou, etc. En fait, ils donnent des marshmallows aux alligators. Bref, des trous du cul. Et nous, en fait, ma mère, qui aime bien sortir des sentiers battus, nous a trouvé un bayou à 2h30 de voiture de la Nouvelle-Orléans. Donc, on a fait du chemin, on a fait 5 heures de caisse dans la journée, mais c'était pour le mieux puisque on a, en fait, été sur un petit lac qui s'appelle le Lake Martin. Et en fait, on était 5 avec le guide sur le lac. On a eu le lac pour nous tout seul pendant 2 heures de balade. Et en fait, on a rencontré Norbert, qui est un vieux monsieur de 84 ans, qui nous a tout expliqué comment lui, il tue, alors ça, vous aimez pas, peu importe, mais, qui tue les alligators et les tortues lui-même pour les manger. Il tue pas pour le plaisir, il s'en fait des soupes. Il vit depuis, toute sa vie. Il est né, il a grandi, il a élevé ses enfants dans le bayou. Il vit dans une petite maison sur pilotis.
C'était votre guide, c'est ça?
C'était notre guide et il nous a tout expliqué. L'année dernière, il a eu Anne Hidalgo, lol. Et c'était trop drôle. Et il nous a montré des photos avec Anne Hidalgo.
En trottinette.
En trottinette électrique dans le bayou.
Dans le bayou.
Et
j'ai mangé une soupe de tortue.
et donc, on a vu plein d'alligators, on a vu des dizaines d'oiseaux, plein de tortues, j'ai appris plein de choses. En fait, le mec a eu une double page dans le National Geographic. Enfin, vraiment, il est trop fier. Tu vois, t'as ce petit monsieur qui a rien fait d'autre de sa vie. Il est jamais sorti de la Louisiane à part une fois pour aller en France, Norbert. En 58. Et Norbert. Et ouais. Et donc, Norbert nous a tout raconté de sa vie. C'était passionnant. Et enfin, moi, j'adore rencontrer des aînés un petit peu qui me racontent leur vie. Je sais pas, moi, les vieux, c'est un peu ma passion. Peut-être parce que j'ai vécu avec un vieux, avec mon grand-père pendant des années. Mais j'adore les écouter parler de leur vie. Et lui était particulièrement intéressant parce que sa manière de raconter l'éducation de ses enfants dans le bayou, à l'état sauvage, un peu, enfin, à l'encontre de tout ce que faisait le monde alentour, tu vois, c'était passionnant. Donc ça, c'était un super beau moment. Et aussi, le meilleur moment, enfin, le moment le plus riche que j'ai vécu, c'était lors d'une visite d'une plantation qui s'appelle la plantation Laura. Ça va rejoindre, du coup, ce que tu disais. En fait, la plantation Laura, c'est une plantation de canne à sucre. Et en fait, c'est une plantation qui, quand elle a été ouverte, avait, je crois, une 15aine d'esclaves. Et en fait, au fur et à mesure que l'endroit a pris du succès et a réussi à bien vendre son sucre, les esclaves ont été de plus en plus nombreux à être achetés, jusqu'à ce qu'il y en ait 190 sur le domaine. Et donc, en fait, on a eu plusieurs heures de visite avec un guide créole, noire. Et je pense que ça a de l'importance quand tu viens raconter l'histoire de l'esclavage en Louisiane. Mmh. Et en fait, ce monsieur nous a fait passer dans la grande maison, donc le domaine où les nobles vivaient, quoi. Et donc, on apprend la vie de Laura et aussi de ses aînés, de Elisabeth, qui était la grosse tenancière du machin. Et en fait, il raconte que les plantations à l'époque, il n'y avait aucun souci pour qu'elles soient tenues par des femmes. Au contraire, en fait, on estimait que les femmes, bah déjà, elles mouraient plus tard et qu'en plus, elles avaient le sens des affaires, qu'elles étaient moins volages, que du coup, elles étaient plus concentrées sur la tâche, le travail. Donc, on n'avait pas de souci à leur confier des gros jobs. Et donc, une fois qu'on a eu connu comme ça toute l'histoire de la famille de gros bourges qui ont fait leur business, on est passé du côté des esclaves. Et en fait, on est allé à l'endroit où ils dormaient, on est allé visiter leur cuisine, etc. Et ça a été très fort en émotion. On a eu beaucoup de détails dont, en fait, on est souvent privé dans les films. Et tout ça, c'est basé sur les mémoires de la dernière jeune femme à posséder le domaine, qui s'appelait donc Laura. J'ai acheté ses mémoires et donc elle a tenu avant de mourir de, comme toi, raconter. Bon, tu vas pas mourir après demain.
Je suis pas esclave.
Mais non, mais elle n'était pas esclave. Hein. C'était la propriétaire. Elle a écrit ses mémoires et elle était un peu le visage du libéralisme et du progressisme de la plantation, alors qu'avant il y avait eu que des esclavagistes sur le terrain. Et donc elle a tout écrit pour que ses enfants puissent se rappeler que c'est de sa vie extraordinaire qu'elle a passée à prendre des décisions et à essayer de faire en sorte que les esclaves soient mieux traités. Bref, c'était passionnant, c'était assez émouvant. Et donc, anecdote rigolote, c'est qu'on allait sortir. Moi, je discutais avec le guide devant, je lui posais des questions, bref. Et mon mec, Naël, me dit « Ouais, Cal, t'as pas un mouchoir ?» Il était loin derrière moi. Je me retourne et je le vois rouge. Je me dis « Oh putain, ce con, il a mangé un machin, il nous fait une allergie. » Et pas du tout. Et là, je lui dis « Ça va pas ? Qu'est-ce que t'as ?» Il me fait « Et là, il fond en larmes, mais vraiment fondu en larmes, genre sévère, tu vois. Des gros sanglots impossibles à arrêter, rouges et tout. Je lui dis « Qu'est-ce que t'as ? Pour la honte. »
L'empathie, c'est vachement bien.
Et je lui dis « Qu'est-ce que t'as ?» Parce que au début, j'étais un peu... Il me dit « Bah, je sais pas, en fait, ce que t'as entendu, ça t'a pas... »
C'est émouvant, non ?
Je lui dis « Bah, bien sûr que j'ai été bouleversée, mais... » En effet, je connais un peu l'histoire. Enfin, on sait un peu ce qui s'est passé. Alors, en effet, rentrer dans les détails à ce point-là, c'est rare. Mmh. Et en fait, de le voir toucher comme ça, ça a donné une autre dimension à ce que je venais d'ingérer et de comprendre. Et vraiment, je l'ai vu aller se mettre tout seul. Il pleurait dans la boutique après, moi, pendant que j'achetais mon bouquin. Je lui dis, ça va ? Le mec, il était assis sur son banc. Il pleurait à chaudes larmes. Et ma mère est venue, elle m'a dit, t'as vu l'état de Naël ? Je lui dis, bah ouais. Et jusque dans la voiture, après, il pleurait à chaudes larmes comme un enfant, tu vois. Et à pas pouvoir s'arrêter. Donc c'était un vrai joli moment qu'au début, tu vois, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir, et c'est terrible, un peu de honte, de me dire merde en fait. Et c'est parce qu'on n'a pas appris aux hommes à pleurer, je pense, aussi facilement. Et genre, du coup, je vois mon mec, je suis là, d'habitude, je vois pas les hommes pleurer, chelou, tu vois.
Il pleure rarement, d'ailleurs.
Non, Nel, il pleure souvent. Mais.
Et donc t'es au courant.
Ouais, mais il pleure souvent devant Star Wars, si tu veux. Enfin, c'est des trucs. C'est pas.
Au moment où Chewbacca, il fait. C'est vachement
non, c'est pendant le générique de début en général. Et le thème de Dark Vador, ça le fait chialer à tous les coups. Mais du coup, je m'attendais pas à. En fait, là, c'était vraiment d'une sincérité, ça venait du fond de son cœur et de l'empathie terrible pour ce qui s'est passé, pour des années d'histoire terrible et honteuse. Et enfin, voilà, c'était un vrai moment fort de notre séjour. Voilà, je vais acheter là-dessus. Juste, je vais faire un petit point sur la bouffe cajun qu'on m'avait vantée et revantée et revantée. Vous connaissez, vous qui écoutez ce podcast, mon amour pour la bonne cuisine. Il s'avère que j'ai été largement déçue par la nourriture au ça départ. Pour après m'intéresser vraiment dans les guides du Routard et les Lonely Planet à des restaurants qui sont pas du tout touristiques et qui servent pas de la bouffe cajun un peu grossière, parce qu'en fait, elle est souvent faite à base de riz trop cuit avec des saucisses, des crevettes, bon, c'est pas passionnant. Et on a été dans des super restaurants où on a mangé des trucs vraiment délicieux et pas trop cher. J'ai mangé des dattes fourrées au chorizo délicieux, ouais. Du poulet braisé au fenouil incroyable. Enfin, c'était délicieux et finalement, je me suis assez régalée, suffisamment pour me dire que là, j'ai une nouvelle résolution qui est, on va voir si on va la tenir, j'ai envie de m'inscrire à la mairie de Paris pour faire un CAP cuisine en plus de mon travail, yeah. Et de faire les cours du soir, tu vois, pour apprendre la cuisine. Et en fait, moi, la cuisine, je l'ai apprise toute seule parce que c'est ma passion, mais manger, c'est ma passion, donc de fait, j'ai dû apprendre à cuisiner. Et en fait, cette nuit, par exemple, j'avais fait une insomnie et j'ai créé 3 recettes. Et je me dis, c'est trop cool, mais il faudrait que je puisse maîtriser ne serait-ce que les rudiments de la cuisine, les sauces que je connais mal, tu vois, faire une sauce hollandaise, c'est con et tout. Et monter en gamme. Et peut-être dans 5 ans, je fais Top Chef, on sait pas, tu sais.
Ce que j'ai dit, Lindy Top Chef 2022.
Ah, je serais trop contente. Mais en tout cas, du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il est temps de se réveiller. En fait, tu voyages non seulement pour apprendre des trucs culturels et tout, mais il faut pas le cacher. Je voyage aussi parce que j'aime faire le tour du monde de la cuisine. C'est vraiment, je pense, mon essentiel dans le voyage. Donc, je me suis dit, bouche-toi le cul, fais ça maintenant. Donc, je vais essayer, peut-être pas tout de suite, mais à la rentrée, faire le CAP. Voilà.
C'est trop bien.
Il y avait 5 kiffs en un, mais voilà.
Je peux faire un mini addendum, en fait, si, sur la culture de la Nouvelle-Orléans. Il y a cette excellente série de HBO qui s'appelle Trémé.
Ah oui.
Qui est donc Trémé, c'est justement le quartier un peu berceau du jazz à la Nouvelle-Orléans, qui était aussi un quartier ultra pauvre et populaire, et qui a été l'un des plus touchés par l'ouragan, par Katrina.
Ouais.
Donc, qui a ravagé la ville. Donc, Trémé, ça commence un an après Katrina, et donc, c'est une série qui, à travers plein de personnages, traverse justement la culture de la Nouvelle-Orléans, à la fois sur la musique, donc il y a du jazz, il y a du funk, il y a du rap, il y a vraiment plein de trucs nés là-bas, mais aussi sur la bouffe, sur les engagements sociétaux, sur effectivement le manque de réaction de la police à la suite de Katrina, quelques bonnes vannes sur ce bon vieux George Bush, et en fait qui est vraiment juste... Ouais. Tu nous entends, souviens. Et en fait, non, c'est vraiment une super série en 3 ou 4 saisons. Et il y a plein de trucs... Ouais, 3 ou 4 saisons de 10 épisodes. Il y a plein de trucs super marrants, même derrière, en fait, la culture du carnaval. Et plein de trucs qu'on connaît très peu sur la Nouvelle-Orléans, comme les Indiens de la Nouvelle-Orléans, qui sont des espèces de gars déguisés en Indiens avec plein de plumes, machin, qui se baladent en bande pendant les carnavals pour se faire des espèces de duels de voix, de chansons.
Quoi ?
Mais en groupe, en fait. Donc, c'est un truc ultra codifié, ultra traditionnel, super beau. Il n'y a presque pas d'instruments, t'as des voix et des percussions, donc c'est des trucs ultra tribaux, mais façon un peu funk et tout ça, quoi, groovy et tribal. Et c'est oufissime. Et toute la série est trop bien.
C'est fait par les créateurs
de The Wire.
Évidemment. Oui, on les adore.
Car ce sont les meilleures personnes. Mais ça traverse. Il y a plein de musique. Ils ont arrosé tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans qui ont tous des scènes à l'intérieur.
Moi, je veux juste dire que j'étais au carnaval de la Nouvelle-Orléans pour mon anniversaire en 2016. Voilà, c'est tout. Merci.
Mais franchement, ça a l'air trop bien. J'ai été au presbytère de la Nouvelle-Orléans où justement, t'avais une exposition sur le carnaval et à quel point c'est important pour eux et tout.
Sauf que ils demandaient aux filles de montrer leur sein pour avoir des colliers. Excellente tradition.
Ouais. Bah, les Américains.
Ouais. T'as fait Exhibit B, non ?
Et pardon ?
Exhibit B à la Nouvelle-Orléans.
Non.
C'est tout un ensemble d'immeubles abandonnés qui ont été récupérés par des taggers. Et genre, c'est vraiment une cité.
Putain,
entière,
mais si on avait su, on aurait
pété de tags partout.
Bah, la prochaine fois, cet été, on retourne peut-être aux États-Unis finalement. Donc, on verra. On va peut-être faire un tour en van.
B, c'est B.
Ça marche. Mais juste, d'ailleurs, j'ai vu une exposition, donc non seulement sur le carnaval, mais aussi sur Katrina, ça a été en 2005. Et en fait, dans cette exposition, il y avait tous les ravages qu'ont causé Katrina. Et on n'est même pas aware, en fait, en France, à quel point ça a été un truc, mais de l'enfer, de l'apocalypse. Ouais. Et bon, voilà, j'ai rien de plus à ajouter, mais bravo aux gens qui ont réussi à tout reconstruire après cet événement dramatique qui a secoué une partie des États-Unis.
Rien à voir, mais je vais digresser. Mais quand je t'ai entendu parler de bouffe, je me suis dit « Ah ! Il y a Food Wars saison 2 qui est disponible sur Netflix. » Je t'ai entendu parler de bouffe, ça m'a donné faim. Je me suis dit « Qu'est-ce qui me donne faim aussi ? C'est Food Wars quand je regarde Food Wars. »
Putain, j'ai toujours pas regardé, bordel.
C'est vraiment très très bien. Donc, il y a la saison 2 qui vient de sortir, là.
Ok.
Si, parce que donc Mimi en a parlé dans un épisode.
Ouais.
Les gens
qui un vieil épisode, ouais, au début, je crois.
Ah, exactement.
En tout cas, moi, je te vois bien dans la brigade de Etchebest.
Bah ouais, m'obliger. Je le ken Etchebest. Si tu nous entends.
Bah écoute, vous serez les premiers à le savoir ici.
Ok.
Voilà.
Mais je ken tous les gens qui font de la cuisine de manière générale.
Moi, bisous. Je te vois, ouais. Chez Saran, toi, tu serais bien chez Saran.
Oh non. Bon. Michel, Kalindi et Chebest, mais, oh là, mais oh, ça serait incroyable, les audiences.
Ah oui.
Là, elles sont là-haut. Déjà, ils te diraient vas-y, appelle-moi chef. Et non, en fait, c'est qui.
J'appelle la prod demain.
Déjà, je l'en robe à fleurs, donc laisse-moi tranquille. Il reste plus que toi, Fabrice.
Ah bah
Laurent.
Oui, c'est à moi alors.
Et toi, alors, Fabrice, chez qui t'irais chez Top Chef?
Ah, vraiment, je regarde pas. Je suis pas assez, moi, je suis Team Koh-Lanta.
ça n'a rien à voir d'ailleurs, c'est pas opposable.
Bah il mange aussi, mais moins bien.
Ah, il mange
des yeux de barracuda toujours ou pas?
Ah ouais, c'est ça.
C'est cette semaine, je pense.
Enfin, ah, mais peut-être que c'est fort en iode, c'est bon ça.
Ça doit être. Bah,
donc cette semaine, c'était la semaine passée quand ce sera diffusé. Mais oui, c'est voilà, parce que c'est toujours diffusé avec une semaine de retard quand on enregistre.
Mais il mange pas des yeux toutes les semaines?
Non. Pas du tout. Moi, je voulais vous parler d'une série que j'ai découvert grâce à la fantastique Marion Séclin, qui est passée très régulièrement dans mon Amazon Prime Vidéo là. Je voyais juste le truc là, je trouvais ça un peu chum et je suis un peu con, j'ai pas cliqué plus loin que ça. Ça s'appelle The Fabulous Miss Maisel.
Ah mais tu tiens ?
Ah ouais, mais grave.
Ah trop bien.
Que je connaissais pas du tout en fait.
Moi non plus.
Voilà.
N'hésite pas à lire les articles de Kalindi Rampfel. Hein.
Bah alors par exemple je suis passé à côté et cette série donc qui met en scène qui se passe dans les années 1950 à New York qui met en scène un couple d'une meuf qui est une parfaite petite ménagère bien sous tout rapport, qui est hyper hyper douée, hyper brillante, mais en fait tu t'en rends compte au fur et à mesure assez rapidement dans le premier épisode et en fait son mec qui veut devenir humoriste qui s'appelle Joel, si je ne me trompe pas. Joel Maisel. Et en fait, cette fabuleuse personne, cette fabuleuse meuf, fait en sorte de tout lui arranger sa vie à ce petit gars. Elle est dans son ombre, en fait, mais comme, je pense, plein de femmes dans les années 1950, d'une manière générale. Le mec veut devenir humoriste, il va dans un café, il n'arrive pas à avoir des horaires assez corrects, tu vois, il passe à 2h moins le quart du mat, et elle vient, elle se pointe avec son petit rôti de bœuf, en fait, qu'elle file au proprio du café pour qu'il puisse passer à 22h30. Elle est hyper douée, vraiment, elle est trop trop forte. Le tout début de la série, c'est tu la vois dans son mariage en train de faire un sketch en fait tout simplement. Et elle est hilarante, elle est trop trop forte. Donc tu te dis en fait elle est super douée. Son mec est médiocre, hein. Et elle lui glisse comme ça des petites vannes que le mec essaie de remettre sur scène, mais qu'il y arrive pas parce qu'en fait il les met pas en scène de la bonne façon, quoi. Ça marche pas.
Il est bien, mais pas top.
Et puis, c'est un peu un connard aussi parce qu'il appuie sur tous ses boutons. Dès qu'il y a un truc qui va pas chez lui, en fait, c'est de sa faute, etc. En fait, là, je vous raconte vraiment le tout premier épisode. Le mec finit par la quitter et elle décide de sortir en robe de chambre parce que c'est un soir que ça se passe, avec une bouteille, elle a trop bu et tout. Et en fait, elle se pointe dans ce fameux café où d'habitude son mec joue et elle fout dehors le mec qui est en train de jouer. Elle commence à prendre le micro et là, elle déboîte tout, vraiment. Elle finit par montrer ses nichons en disant vous rendez pas compte, regardez mes nichons, ils tiennent tout seuls, alors qu'en fait mon mec il s'est fait, apparemment il se payait sa secrétaire, quoi, voilà, assez classique. Elle se fait arrêter parce que bon, forcément déjà apparemment t'as des flics qui restent devant le café parce que dès qu'il y a une injure, dès qu'il y a une insulte, etc., en fait ils embarquent les mecs. Et j'en suis à l'épisode 3 pour l'instant. Donc j'ai vraiment démarré parce que si j'ai bien compris, il y a deux saisons, il y en a une troisième qui va démarrer là bientôt. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est fabuleux. Clémence, qui est la rédac chef de Rocky, qui elle aussi fait du théâtre et tout, du théâtre d'impro, m'a dit mais c'est fabuleux en fait. C'est que le début de la série et en fait après ça devient encore mieux. Donc je pense que ça va être encore mieux et surtout je suis très heureux parce que je l'ai regardé avec mes filles.
Ah, trop bien.
Voilà, parce que Marion m'avait dit, écoute, montre-les à tes filles. Je fais, oh, bah, écoute, pourquoi pas. Et déjà, c'était trop cool parce que les filles, elles comprenaient pas en fait pourquoi le mec c'était encore, pourquoi elle restait chez elle à faire son putain de rôti, et puis pourquoi elle lui arrangeait tous ses bails et tout. Et je disais, bah, les années 50, hein, les meufs, c'est de là qu'on vient, quoi. Et puis le personnage de, alors j'ai plus le prénom de, comment elle s'appelle. Merde.
Non, je sais pas, moi j'ai vu que les 4 premiers épisodes il y a 2 ans quand c'est sorti, quoi.
T'as aimé,
moi,
ou pas?
Ah, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien.
Pourquoi t'as pas continué?
Parce que entre temps il y a une série que j'aimais plus qui était revenue et ouais. Du coup j'y suis repartie et après j'ai complètement oublié jusqu'à ce qu'il y ait eu plein de Golden Globe où je me suis dit bah tiens il faudrait que je m'y remette et je l'ai jamais fait.
Elle s'appelle Midge, elle s'appelle Myriam et son petit surnom c'est Midge, qui est jouée par Rachel Brosnahan. Apparemment elle a pas fait grand chose d'autre d'ailleurs, cette meuf,
je sais, hein, pas exactement. Et si, on l'a vu dans des trucs mais pas beaucoup je pense.
Et en fait elle est fabuleuse, quoi. Vraiment, c'est C'est une et apparemment donc dans la suite de ce que me racontait Marion, c'est que ça t'apprend plein de choses aussi sur le monde de l'humour, la façon dont ça fonctionne, d'apprendre à prendre des bides aussi parce que c'est pas forcément évident.
Il a réagi trop de façon trop drôle, genre oh, prendre des bides, je voudrais que je regarde.
Bah, il a l'habitude, Cédric.
Et puis ça parle l'air de rien de la condition des femmes dans à cette période-là. Je pense que c'est relativement bien documenté d'après ce que j'ai compris. Et puis il y a tout un truc aussi autour de, je pense, de l'amitié entre femmes, parce qu'elle a des potes, comme beaucoup de femmes, elles avaient tendance à l'époque à vivre un peu entre elles et puis les mecs un peu à part. Elle a des potes et je pense qu'il y a tout un truc aussi qui a l'air de se dessiner autour de l'amitié homme-femme, qui a l'air d'être vraiment hyper intéressant. Donc voilà, j'ai découvert ça il y a 2 jours. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de tout bouffer, quoi. Mais le problème, c'est que bon, je le regarderai que le week-end avec mes enfants, quoi, parce que je veux vraiment continuer à regarder avec elle, quoi.
Trop bien. Trop,
ouais, c'est cool de regarder ça avec elle.
Ouais. Il y a combien d'épisodes par saison?
8-10, hein, je pense. J'ai pas regardé.
Elle a été ovationnée, elle a eu plein de prix.
Oui, elle a gagné plein d'Emmy.
C'est 20 minutes et alors, 40 minutes par épisode.
C'est plutôt 40 minutes. Et je vous en ai pas parlé, mais en fait, je trouve qu'il y a un truc génial dans cette série qui a les dialogues sont très théâtraux. En fait, ils se parlent, mais c'est enchaîné à merveille. Il y a des plans séquences énormes en termes de réel, où vraiment t'as les mecs qui passent en arrière-plan, qui passent machin, et en fait ils sont en train de parler au fond, ils sont en train de surler dessus, et ça contribue aussi au dynamisme du truc. Et je trouve qu'il y a une sorte de punch dans les dialogues qu'on retrouve dans très très peu de séries d'une manière générale, où vraiment ils s'enchaînent les uns les autres, quoi, vraiment. Et je trouve que ça donne vraiment un aspect très théâtral. Un peu théâtre de boulevard, quoi.
À
cette série
regarder,
hein. Qui est vraiment trop trop bien. Donc elle est dispo en France sur Amazon Prime Video. Et puis sinon après vous pouvez commander à votre cousin américain.
Plateforme illégale.
On appelle ça les cousins américains chez nous. Parce
les cousins, voilà. Les cousins.
Exactement.
Les cousins qui ont les bails.
Chez les cousins.
C'était tout pour moi.
Putain, mais on a fini, ça fait combien de temps là?
Ça fait 1h40, on a terminé.
Je crois que c'est la première fois.
LMK, on a été extrêmement efficace.
On a été efficace et concis et brillant, lumineux.
Et puis, alors là?
Des puits.
Des puits.
Des puits. Des puits, quoi. Bienvenue dans le podcast des 4 puits.
Putain, vous déformez tout ce que je dis, c'est terrible.
En tout cas, merci d'être venu. Merci Alison, c'était trop cool.
Bah
merci
de t'avoir. Je suis content d'être avec vous.
C'était trop bien.
C'était trop bien.
Une vraie lumière.
Et du coup, juste fais un bisou aux maths parce que dès que j'en croise, elles sont trop cool et voilà. J'aime bien, elles sont rigolotes. Je me sens là, mais... t'es la rose de mademoiselle. Ouais, je me mets un prénom, ça tue. Putain.
Abonnez-vous à ce podcast, mettez des bonnes notes et puis rendez-vous tous les mercredis donc.
Mettez des bonnes étoiles
sur iTunes.
Grosse étoile là, tac tac.
Et sur des étoiles violettes. Sur toutes les applis de podcast, vos applis de podcast, etc. etc.
N'hésitez pas à laisser des commentaires qu'on lira la prochaine fois.
Vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube.
Ouais. Et des likes. Moi j'ai des likes sur mes différents comptes Google.
Mettez-nous des likes sur Google Plus, c'est important.
Je sais même pas ce que c'est.
Et puis d'ici la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais ce qu'on dit ou pas?
Non, je me souviens pas. Hein.
Voilà.
Hein? Vas-y, bah dis-le.
Et d'ici la semaine
tu
prochaine.
Tu crois que c'est une vanne en fait? Non, tu crois qu'on va se faire dire un truc?
Bisoutage!
Tu vas voir, t'es prêt? Et d'ici la semaine prochaine.
Touchez-vous bien, Kiki!
Vous avez hurlé dans le micro là.
En même temps, Alison remplace Mimi, c'est finalement assez normal qu'elle ne prononce pas notre phrase de fin puisque Mimi ne le fait pas elle-même.
Ça m'étonne tellement pas de toi, Mimi. Bisous, t'écouteras pas, mais c'est pas grave.
Allez, bye.
Bye.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.